Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve à quelques heures du début des playoffs pour les Suns et puis pour toute la NBA tout simplement. Le match 1 entre les Wolves et les Suns, donc ce sera à Minneapolis ce samedi soir à 21h30 heure française. Donc un horaire acceptable pour les fans européens, ça fait plaisir, même si c'est un samedi soir. Et donc on va se lancer dans cette preview, se projeter vers cette série du premier tour qui arrive là face... aux Wolves qui ont longtemps été la meilleure équipe et l'équipe qui dominait la conférence Ouest. On va en parler. et justement, déjà, on a bien sûr Greg qui est avec nous pour cette preview. Comment ça va, Greg ?
Écoute, ça va très bien. J'ai passé, je vais pas mentir, hein, j'ai passé quand même la journée à bosser cette preview, à écouter tout un tas de previews françaises, américaines. D'ailleurs, je tiens à féliciter le boulot des Français, de tous les médias français qui est extraordinaire. Et qui est largement au niveau des médias type ESPN, etc., avec trois serviettes et deux bouts de ficelle. En France, les bénévoles arrivent à faire au moins au niveau de gars comme Zach Lowe, etc. Donc bravo à toutes et tous. Et je suis très, très impatient de faire cette preview parce que c'est une match-up qui m'intéresse grandement et que je trouve hyper contrastée et intéressante.
Ouais, il y a vraiment une opposition de style, hein. De toute façon, on va l'explorer un peu dans ce podcast. Et effectivement, beaucoup de choses à dire. Donc, pas d'Hicham malheureusement pour ce podcast avec nous, mais on a un invité. C'est un peu la tradition dans Valley Hoop, hein. Avant les séries de playoffs, on essaye d'inviter le camp adverse dans notre émission, dans notre podcast, pour discuter un peu de ce qu'on va voir sur le parquet. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Léo de T-Wolves Fra. Donc, il y a plusieurs comptes, hein, de fans des Wolves sur Twitter. Celui-là, c'est T-Wolves Fra. Donc, T-Wolves France, hein, j'imagine, T-Wolves FR, je crois que c'est. Timberwolves FR, c'est comme ça que ça se dénomine. Mais donc c'est @TWolvesFra. Et donc c'est Léo qui est avec nous. Salut Léo, comment ça va ?
Ça va très bien les amis, merci beaucoup de m'accueillir et de me recevoir. Vous êtes, comment dire, vous êtes un astre dans cette fin de saison cataclysmique des Wolves.
Et même plusieurs, hein. Il y a plusieurs soleils, c'est dans une autre galaxie, mais c'est bizarre. Exactement. C'est comme ça que ça se passe avec Phoenix. Et donc du coup, ouais, non, clairement, ça va être une série très très intéressante. J'imagine que pour toi et pour tous les fans des Wolves, il y a beaucoup d'attentes, évidemment, après cette excellente saison régulière. Voilà, avec ce premier affrontement qui va déterminer beaucoup de choses, forcément, les deux équipes ont de grosses ambitions. Il y a une des équipes à passer à la trappe, donc ne serait-ce que ça, c'est un sacré enjeu. Écoutez, messieurs, je vous propose de ne pas perdre plus de temps que ça. On va pouvoir se projeter directement dans cette preview après le générique. Back with the Remus, these boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like on book. Raising up, deep three on the way. The ranch goes boom! That is just. Sun came out. I went about to drop top. On est donc dans Valley Hoop pour faire la preview du premier tour des playoffs à l'ouest entre les Suns et les Wolves. Donc les Wolves qui ont fini 3e de cette conférence ouest et les Wolves qui ont fini 6e. Alors je le disais un peu en préambule, hein, les Wolves ont longtemps mené la conférence ouest et ont fini par laisser filer cette première place qui...
Descendre d'organes, t'as le droit de le dire.
Justement, tu vas nous en parler, ça va être la première question, Léo, je vais immédiatement te donner la parole. Quand on voit d'un point de vue extérieur, on se dit, 10 victoires, 5 défaites sur les 15 derniers matchs de la saison, pas si mal que ça. Mais pourtant, effectivement, le résultat, c'est que vous finissiez 3e. Bon, ça, je ne dois pas grand-chose. Est-ce que la fin de saison des Wolves a été décevante, selon
vous ? C'est intéressant, cette question, parce que ça témoigne aussi du niveau exceptionnel de la Conférence Ouest. Plus de 10 équipes à 50% ou plus de victoires, hein. Sur la saison, je crois que ça s'était jamais arrivé. J'avais vu une stat qui passait là-dessus. Est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est déçu, surtout qu'on perd en fait cette deuxième place, parce que fondamentalement Denver allait gagner contre Phoenix, contre les Grizzlies, mais on perd cette deuxième place en perdant contre vous. Non, on n'est pas déçu. Enfin, on est déçu au regard de toute la saison, parce que j'avais posté sur Twitter il y a quelques temps justement un graphique qui montrait l'évolution de toutes les classements des équipes de la Conférence Ouest, et on remarque que nous on est à les 75% du temps en première position avec des fluctuations rapides, Et puis à un moment, on perd le fil et puis on, vous me passerez l'expression, mais on se fait dessus. Et voilà, c'est dire aussi que il y avait une véritable qualité dans ce triptyque entre OKC et les Nuggets. Voilà, nous on fait une super saison. Puis j'ai envie de dire aussi qu'on prend du recul et on se dit que on n'a pas eu la chance d'aller beaucoup en playoff sur ces deux dernières décennies. On est quand même heureux d'être là et puis surtout là pour la première fois depuis 2004, on accueille une série de playoffs parce que les trois fois précédentes, c'est-à-dire l'année dernière, on allait chez Denver puisqu'on était le 8e seed. L'année d'avant, on était contre les Grizzlies, on était 7e. Et puis en 2018, on se fait ratiboiser contre les Rockets. Mais la dynamique change parce que du coup, on va vous recevoir.
Effectivement, ouais, ça change beaucoup de choses. Et puis même d'une manière générale, cet avantage du terrain, hein, tout simplement, c'est la récompense d'une des meilleures saisons régulières de l'histoire de la franchise, tout simplement. Moi, j'entends beaucoup. C'est la deuxième meilleure régulière. La deuxième meilleure saison régulière de l'histoire des Wolves derrière, dans les chiffres, c'est un peu ça. Est-ce que tu étais d'accord avec ce constat-là?
Oui, plus ça veut dire aussi que c'est un peu la tristesse, parce que ça veut dire qu'on a une équipe qui est une franchise qui est assez, il faut le dire, médiocre. Et effectivement, la meilleure saison, c'est la fameuse saison 2004 où on va en finale de conférence, on perd contre les Lakers. Je pense que tout le monde s'accorde à dire, en tout cas, le regretté Flip Saunders le premier. Disait que si Sam Cassell fait pas sa danse débile sur la Big Balls Dance et qu'il se blesse pas dessus, on est champion cette saison-là parce qu'on avait bien battu les Pistons sur cette saison-là, on les avait battus assez de manière assez folle. Donc ça c'est un grand what if, hein. J'en parlais avec Val What If, je pense que vous connaissez, hein, sur Twitter. Et pour répondre à ta question, la dynamique, la chose change, mais au final, vous avez prouvé que vous avez gagné chez nous et donc que ça ne vous fait pas peur d'aller chez nous. Donc, je ne sais pas si l'avantage du terrain en tant que tel est un si grand avantage que ça. En tout cas, nous, on s'attend à une réaction d'orgueil parce que vous nous avez, je pense qu'on va en parler, vous nous avez battu à trois reprises. Il y a un 3-0 sur cette saison régulière.
Ouais, tout à fait. Effectivement, pour l'instant, les Suns n'ont pas perdu cette saison contre les Wolves. C'est assez paradoxal, effectivement, alors qu'on vient de parler d'une saison régulière quand même très 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 aboutie pour Minnesota, et à l'inverse, on a parlé tout au long de la saison d'une saison régulière complètement irrégulière pour Phoenix. Et pourtant, voilà, contre les Wolves, on a été plutôt performant à chaque fois.
C'est à la fin, du bal qu'on paye les musiciens de toute façon.
Ah bah ça c'est clair, bon effectivement voilà, et on le sait très bien, on en a parlé beaucoup lors du dernier podcast, que quoi qu'il soit arrivé finalement dans cette saison régulière, c'est cette équipe des Suns, elle a été assemblée pour performer en playoff, donc c'est surtout sur les playoffs qu'elle va être jugée, voilà, c'est à partir de maintenant que ça commence réellement. Greg, si je dois te passer la parole sur les Wolves, qu'est-ce que t'as pu toi observer sur les matchs que t'as vus en fin de saison, quel est l'état actuel de cette équipe?
Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué particulièrement. C'est d'abord la progression d'Anthony Edwards, qui est un joueur que j'ai toujours, entre guillemets, remis dans un contexte, parce que ça fait déjà quelques années qu'il est une star de la NBA, mais je trouve qu'il n'est pas efficace sur le terrain, au moins à niveau de ce qu'on présente de lui. Il a une image extrêmement positive et je ne trouve pas que son rendement jusqu'à cette saison 2023-2024 le justifiait réellement. Et là, en 2023-2024, il fait vraiment des progrès, et notamment sur les drives et un petit peu au playmaking, mais sur les drives, il devient juste absolument inarrêtable. Et ça, c'est vraiment chouette pour Minnesota qui en a besoin, surtout avec le spacing proposé par Karl Anthony Towns. J'aime aussi beaucoup, de notre côté, la défense proposée par Rudy Gobert, qui est une défense presque plus complète que ce qu'on a vu sur ces années de défenseur de l'année du côté du Jazz, parce que je trouve qu'il a gagné énormément en mobilité et il est capable d'aider ceux qui l'aident. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment trouvé hyper
je te coupe,
efficace de ce côté-là du terrain.
De dire concrètement que tu trouves qu'il est meilleur aussi parce que à Utah, les coéquipiers défendaient moins que nous on défend cette année.
Je pense qu'à Utah, il n'a jamais eu un Jaden McDaniels avec lui, ni un Mike Conley. Mike Conley, c'est quand même un cerveau avec un énorme cuit basket.
Il a eu un petit peu à Utah.
Oui, tout à fait, un petit peu.
Mais tu veux dire que, par exemple, Donovan Mitchell défend moins qu'Anthony Edwards, par exemple?
Ouais, Joe Ingles. Ce que je vais dire, c'est que Joe Ingles est un bien moins bon défenseur que Jaden McDaniels, voilà, clairement. Et ça, si tu veux, c'est voilà. En plus, derrière, tu as Karl-Anthony Towns qui a un physique qui est fait pour défendre. Alors, il n'a peut-être pas des aptitudes mentales pour une défense élite, mais j'ai trouvé que cette année, Chris Finch avait réussi à le motiver. Donc, moi, j'ai trouvé que la saison de Minnesota était vraiment bonne. Et pour le coup, tu rappelais qu'on avait fait 3-0 contre vous cette saison. Moi, ces résultats-là, ce 3-0, on va en reparler hein, sans doute dans les minutes qui viennent, mais ce n'est pas un truc que je trouve très fiable. Ce n'est pas une data qui m'intéresse vraiment. Malheureusement, on n'a que ça pour faire cette preview, donc on va aussi faire cette preview là-dessus. Mais je me méfierais de la fiabilité de cette data pour la
De
simple et bonne
l'échantillon,
raison, c'est que, ouais, de l'échantillon, ouais. Le premier match, vous êtes en back-to-back et vous êtes éreinté. Et ça se voit d'ailleurs sur votre sélection de shoot à 3 points, ça marche moins bien que sur le match précédent. Ensuite, il n'y a plus Karl-Anthony Towns sur le match 2. Et au match 3, il revient, mais moi, j'ai senti qu'il n'était pas au max. Donc, je trouve que cet échantillon est un peu biaisé, je ne lui ferai pas 100% confiance. Mais la saison des Wolves, moi, m'a plu, hein, vraiment, j'ai trouvé ça top, quoi.
Ouais, bah effectivement, on reparlera après de ces trois matchs et t'as bien fait déjà de poser comment dire,
Les
les
bases.
guillemets, ouais, bah simplement voilà les je sais pas quel est le terme
Les
exact qu'on peut donner, tu
éléments.
vois, mais la nuance tout
Ouais, les
simplement à chaque
nuances,
fois
ouais,
qu'on peut
exactement.
accorder aux 3-0 des Suns contre les Wolves. Effectivement, pour être tout à fait exact, on en a déjà parlé dans l'émission parce que ça a été un match assez important pour Phoenix cette année, contrairement à Minnesota. Mais le premier affrontement, c'était juste après le fameux match de Minnesota contre les Warriors, avec la baston là, Draymond contre Rudy. Et c'était, je crois, je sais plus, il y avait un joueur des Wolves qui avait été exclu aussi ce soir-là. C'était McDaniel, je sais plus. Mais bref, donc en gros, c'était un match assez particulier. On sait que voilà, ça a été un match la veille où Utah a mis beaucoup d'influx et donc forcément, c'était difficile d'en tirer des conséquences réelles et véritables. Et ça s'est effectivement, à mon avis, vérifié aussi pour les deux autres matchs de la saison entre les deux équipes. Pour revenir sur la forme des Wolves, Léo, sur la question d'Anthony Edwards, effectivement, l'image un peu générale mainstream, c'est qu'il a passé un cap cette saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi, il y a vraiment quelque chose, un step-up vraiment important d'Anthony Edwards? Et est-ce que c'est essentiellement autour de lui que ça va se passer en playoff?
C'est une bonne question, ça aussi. Je ne pense pas que ça soit essentiellement autour de lui que ça va se passer en playoff, en l'occurrence contre vous, parce que je pense que ça va plus se passer que du côté de Karl-Anthony Towns. Greg l'a évoqué un peu aussi. Je pense que c'est un match-up qui vous complique la vie, le Karl-Anthony Towns. Alors qu'Anthony Edwards, vous avez très bien défendu, je dis vous, hein, Bill et Booker ont très bien défendu contre lui, je trouve. Et même Grayson Allen, il me semble, à un moment, s'est mis sur Ant. Est-ce qu'il a passé un cap cette saison? Oui, vraiment, toutes ses statistiques sont à la hausse, hein, ses statistiques en carrière sont à la hausse sur cette saison. Après, voilà, j'ai envie de dire, il a 22 ans, mais on attend déjà de lui qu'il le prouve en playoff. Donc, on est un peu dans l'attente, dans l'expectative, un peu dans l'appréhension, hein, parce que c'est tous les fans des Timberwolves ont ça dans leur ADN, c'est-à-dire l'appréhension d'une défaite improbable ou d'un truc surréaliste qui va nous arriver. Pour répondre concrètement à ta question, oui, il a passé un cap, et pas tant que statistique, mais aussi dans l'attitude. Voilà, il a embrassé ce rôle de franchise player, tout en étant quelqu'un de très humble, hein, c'est un mec adorable et très marrant, mais il y a ce côté, je regardais une déclaration par rapport au match-up contre les Suns. Et il disait qu'en gros, que c'était Karl-Anthony Towns, même lui qui le dit, hein, que Karl-Anthony Towns allait faire la différence et que lui, il savait qu'il n'avait pas à se préoccuper de lui, mais qu'en gros, la différence sera faite par Kat, qui revient de blessure, qui n'a pas été exceptionnel contre vous. Mais voilà, Kat est attendu au tournant
Ouais, c'était
et
ma question suivante, justement, pardon, je te
ouais.
coupe, mais c'était pour te donner ma question suivante, effectivement, où est-ce qu'il en est, Kat? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur cette série, quoi?
Si tu veux, c'est une vision que j'ai. Je ne pense pas qu'elle soit partagée par tout le monde. Les gens disent souvent qu'ils sont déçus par Kat en playoff. Je pense que ça peut vraiment être pas mal pour lui. Là, on le voit dans les déclarations. Après, les déclarations, c'est ce que ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'on peut s'attendre à un Karl-Anthony Towns agressif. Un Karl-Anthony Towns qui va, comme l'a dit Greg, hein, être une comment dire ça Oui, ça va être un angle d'attaque, un élément intéressant pour cette série, dans le sens où voilà, c'est un mec qui fait 2m11 et qui shoot à 3 points. C'est le meilleur shooting big man de l'histoire autoproclamé. Hein. Certains diront Dirk Nowitzki. Mais voilà, il y a cette dimension-là que j'attends. Et surtout, il fait partie de cette raquette où Finch le disait il y a quelques jours. En fait, c'était ça, c'était là que le bas blessait. Contre vous, on a eu du mal à imposer notre dimension physique, notre taille. Et c'est là que, je pense, la série va se jouer. Et du coup, Karl-Anthony Towns fait vraiment partie du centre névralgique de ce projet-là, parce qu'en même temps, il peut jouer à l'intérieur, et il peut, donc post-up, et il peut aussi écarter, faire du spacing. Et puis surtout, qui défend contre lui ? Le dernier match de saison régulière, il me semble que c'est Grayson Allen qui a passé le plus clair de son temps à défendre sur Kat. Kat a pas fait un bon match, donc tout le crédit va à Grayson Allen, mais je pense vraiment que c'est un match-up intéressant et un mismatch, en tout cas de ma perspective. Je suis curieux d'avoir vos avis sur les starting lineups.
Ouais, c'est bah. Est-ce qu'on se lance déjà dans cette question-là? Parce que c'est une question, pour le coup, qui rentre vraiment dans le vif du sujet.
Ah, pardon, je suis désolé. Je regardais le conducteur, je me disais, mais c'est là qu'on voit que le conducteur est bien fait, c'est qu'il y a une suite logique, une trame. Bravo à celui qui l'a fait.
Bravo à celui qui l'a fait. D'ailleurs, celui qui l'a fait, est-ce que tu peux répondre à cette question suivante un peu on va peut-être passer justement à vu que je vois qu'effectivement notre ami Léo est impatient de passer à la confrontation revendue, peut-être finir sur les Suns eux-mêmes et sur ce qu'on a vu. Alors, on a déjà beaucoup parlé lors de la dernière émission et qui était un peu un bilan là de cette fin de saison. Peut-être au niveau des rotations, comment cette rotation en vue des playoffs là s'est organisée du côté de Phoenix. Est-ce qu'on a vraiment d'ores et déjà une rotation réduite sur laquelle on va pouvoir compter et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer à coup sûr pour la série qui arrive là de premier tour, ou est-ce que ça va a priori aussi dépendre de comment ça se passe, quoi? Comment tu vois les choses, toi, Greg, à ce niveau-là?
J'ai l'impression que Frank Vogel a fait des choix. J'ai l'impression qu'il a peut-être pas fait tous les choix qu'on aurait aimé qu'il fasse. Mais ça, c'est un autre sujet.
Autre question. Drew, si tu nous entends.
Drew Eubanks, si tu nous écoutes. Mais j'ai l'impression qu'il a fait des choix. Il y a une réduction des minutes d'Eric Gordon, en plus de sa petite blessure, qui me paraît intéressante à noter. Mais surtout, je crois effectivement que Chris Finch, comme Frank Vogel, pour aborder cette match-up sur le premier tour des playoffs, ont choisi la façon dont ils allaient déjà s'affronter. En tout cas, ont déjà choisi la façon dont ils allaient s'affronter, et notamment dans leur choix des défenseurs sur les attaquants d'une équipe et d'une autre. Je pense que Frank Vogel a fait ses choix. Effectivement, sur ces 15 derniers matchs, les Wolves et les Suns ont le même bilan. Hein. Il y a 10 victoires et 5 défaites de chaque côté, je crois. Il y a un net rating qui est légèrement plus favorable aux Suns, et je pense notamment que l'amélioration sur la fin de saison des Suns est due au choix de Frank Vogel. Je sais que ça fait pas l'unanimité dans la communauté et chez les observateurs des Suns, mais en tout cas c'est ce en quoi je crois. Et je crois que les choix de Frank Vogel de faire un peu plus jouer Thad Young, on a besoin qu'il joue davantage, hein. Franchement, ça devient presque évident, on a envie de hurler à Vogel de davantage donner des minutes à Thad Young. Mais voilà, ces minutes font du bien parce qu'elles augmentent le playmaking de cette équipe remplaçante, et elles participent au jeu quand il y a un des deux titulaires sur le backcourt qui est encore sur le terrain en plus de Kevin Durant. Donc c'est vraiment chouette. Sur le panachage des minutes, je trouve aussi qu'on a une configuration qui va bien. On arrive à conserver Nurkic un petit peu plus présent dans le quatrième carton qu'on ne le laissait en début de saison et jusqu'au All-Star Break. Ce qui nous donne finalement dans le quatrième carton des résultats qui sont bien meilleurs sur les derniers 10-15 matchs de la saison qui ne l'ont été toute la saison. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. D'autant plus que face aux Wolves, l'avantage qu'on a, on va en parler encore dans quelques minutes, mais c'est qu'on commence toujours très, très bien. On est, je crois, au-dessus de 15 points d'écart sur chaque premier carton qu'on a joué face aux Wolves cette saison. Et du coup, ça nous créer un tapis de sécurité à l'entrée du quatrième carton, quand on arrive dans le quatrième carton, qui, si on arrive à le conserver, nous offre plus de chances de gagner qu'on en avait pendant toute la saison, ou même quand on avait 15 points ou 20 points d'avance à l'arrivée dans le dernier carton, on était capable facilement de dilapider cette avance et de se faire coiffer au poteau, notamment par les Spurs, par exemple, ou ce genre d'équipe, quoi.
Ouais, c'est arrivé plusieurs fois cette saison et c'est vrai que
Trop de
c'était
fois.
et inversement c'était aussi un peu une des marques de fabrique de Phoenix. Enfin, on sait que on est une des, enfin, on est une très mauvaise équipe dans le quatrième quart-temps cette saison, la pire équipe de NBA,
Nous,
mais
c'est le
on a survécu
troisième.
à
Hein.
ça et on a quand même un bilan. Hein?
Nous, c'est le
Les,
troisième.
oui, je crois que les Wolves sont pas. Ouais, c'est ça. Je crois que vous êtes. Bah, c'est Miami deuxième et je crois que vous êtes effectivement
Ouais,
juste
nous,
au-dessus.
on est historiquement mauvais dans le troisième quart-temps, c'est-à-dire le retour des vestiaires. Mais je voulais noter le très
Ouais.
bon jeu de mots. Je ne sais pas si tu as fait exprès, Greg, mais tu as dit genre, on a envie d'hurler à vos gueules.
Ah, si, moi je fais toujours exprès ce genre de blague de vieux
Ah
là, c'est t'inquiète. Je l'avais noté dans mon petit calepin, hurler à vos gueules.
Tout coché, c'est bon. Et donc, du coup, Léo, pour te donner la parole sur les Suns, tu disais que tu avais un peu observé la Phoenix sur cette fin de saison. Qu'est-ce que tu as pu voir? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, on va dire, sur le jeu de Phoenix, là, sur les derniers matchs de la saison?
J'ai vu deux matchs en intégralité des Suns, hein, pour tout vous dire. J'ai vu, parce que j'étais en voyage, j'étais dans l'aéroport, donc j'ai vu le match contre les Kings, le fameux match contre les Kings de fin de saison. Et puis j'ai vu aussi le match chez vous contre les Clippers, où il y a un score absolument dingue à la mi-temps, où il y a plus de 30 à 40 points d'écart. Et finalement, vous n'êtes pas loin de revenir et de gagner ce match. Ça montre le caractère de cette équipe. Je ne pense pas que vous soyez qu'une collection de talents. Et les Galactiques du Real à l'époque, pour ceux qui sont vieux comme moi. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment. Vous êtes en train de piquer au bon moment, je pense. C'est dommage. Je n'en discutais avec Seb de T-Wolves Nation France. C'est vraiment pour nous le pire match-up. On craignait aussi les Pélicans. A priori, les pauvres, je pense que ça va pas le faire, vu que Zion est blessé. On ne sait pas. Hein. On va voir ce que Ingram va nous réserver. Mais on craignait surtout les Suns. Et moi, ce que j'ai vu des Suns, c'est que vous êtes en montée en puissance, vous êtes sur une bonne série, je trouve. Voilà, on a la même série, mais je pense que vous avez un momentum plus intéressant que le nôtre. Nous, on était un peu en train de se stabiliser. Et voilà, je pense que ça va être très, très intéressant. Je suis toujours épaté par Kevin Durant, mais qui ne l'est pas. Et puis je trouve que Grayson Allen est un super joueur, un joueur sous-coté.
Oui, là-dessus, on est
J'ai
d'accord avec toi, clairement.
vu aussi, pardon, j'ai vu aussi votre match à Denver. Le fameux match où vous gagnez à Denver, où vous, encore
Ah,
une
ça,
fois,
c'est.
Greg a raison,
Ouais.
vous commencez très bien, et Denver peut
Ouais.
plus vous rattraper parce que vous les mordez à la jugulaire, hein, un peu comme la chienne de Greg, et vous lâchez pas. Et du coup, vous êtes. Enfin, ce match-là est impressionnant. Et pour tout vous dire, je sentais bien qu'on allait avoir un booker créatif et créateur, parce que j'ai mis une petite pièce sur il met plus de 6,5 passes d'affilée, décisives, et il termine à 9 passes décisives. Donc, booker qui se mue en créateur, en distributeur, pour faire vivre la gonfle. Et décalé vers du Bradley Beal, vers du Grayson Allen ou vers du Kevin Durant. Voilà, c'est ça, c'est que on sait plus sur quel pied danser. Voilà. Heureusement, on a une très bonne défense, on a la meilleure défense de la ligue, mais on va avoir, comme disent les Américains, work cut out for ourselves.
C'est intéressant. Bah, on va tout de suite, je pense, juste après, passer à la preview proprement dite et effectivement à l'analyse de ces match-ups de chaque côté du terrain. C'est vrai que, bah, ce que tu dis est intéressant parce que d'un point de vue interne, nous on est toujours dans la frustration hein, dès qu'il y a un mauvais quart-temps des Suns, on est bougon et on se dit mais pourquoi ça clique pas, pourquoi ça clique pas, parce qu'il y a vraiment ce problème de continuité en fait dans le jeu depuis le début qui nous agace beaucoup. Mais effectivement, force est de constater aussi que c'est monté en puissance progressivement. Il y avait un élément dont tu parlais, je pense que notre momentum est meilleur. Pour un autre élément, c'est le côté de la santé par rapport à
Oui,
vous. Il y
quatre
a
est
ça, il y a le fait
blessé.
que voilà, il y a des incertitudes autour de Kat, effectivement. Pour nous, il y a voilà, l'infirmerie s'est vidée progressivement, elle est vide vraiment là à l'orée des playoffs. Bon, il y a toujours Damien Lee qui a pas joué un match cette saison, mais bon, il a pas joué un match cette saison.
Vous êtes en train de piquer comme on dit, pique au right time, au bon moment. Désolé, je fais du franglais, mais.
Effectivement, il y a. Ah, c'est ça, il y a un truc un peu comme ça qui se passe. Alors effectivement, c'est ce qu'on espérait, donc on n'ose pas y croire. Il y a eu tellement de contretemps cette saison pour Phoenix, mais finalement, c'est l'image lointaine, la big picture, c'est un peu ça. Et c'est ça correspond aussi à une certaine réalité, à une évolution aussi dans le jeu, avec des responsabilités mieux assumées, mieux réparties, on va dire, au sein de l'effectif. On a vu, tu parlais du point book, mais on a vu Bill beaucoup plus dans un rôle de point guard ces dernières
aussi,
semaines,
oui.
un peu dans un truc de sacrifice, à être capable vraiment de sacrifier ses tickets shoot, hein, tout simplement, ce que sont moins Booker et KD, mais normal, hein, parce que c'est des joueurs qui sont plus ultimes, on va dire, dans leur panoplie de scoreurs.
Des croqueurs aussi.
Donc, ouais, non, il y a vraiment des choses. Bah oui, aussi. ça fait partie du game, hein. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les pièces du puzzle commencent effectivement à se mettre en place pour Phoenix.
C'est assez indéniable. Et ce qui est intéressant, on parle de Denver, je suis curieux d'avoir votre avis, les gars. On parle de Denver à l'instant et du fait que vous avez une victoire pour moi assez probante contre eux il n'y a pas si longtemps. On est les deux premières équipes à se faire éliminer par Denver, la fabuleuse équipe de Denver l'année dernière au playoff. Premiers tours, vous les prenez au deuxième tour. Vous les battez prenez deux matchs quand même. Et j'ai le sentiment quand même qu'après, c'était plus difficile, c'était plus facile pour eux et qu'ils ont eu du mal avec nous, avec votre équipe et notre équipe. Voilà, j'étais curieux d'avoir votre avis sur, parce qu'il faut se projeter, hein, une de nos deux équipes va aller plus loin et très probablement va affronter Denver. Quel est votre ressenti par rapport à ça et comment vous vous positionnez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des ajustements à faire par rapport à ces équipes-là aussi? Parce qu'on est en train de flipper en se disant « Ah, on doit affronter les Suns » ou « Ah, on doit affronter telle ou telle équipe ». Mais si on veut gagner, il faut affronter tout le monde. Donc voilà.
Il y a l'ogre qui arrive derrière. Bah, effectivement, moi, pour moi, Denver, c'est vraiment personnellement, mais je pense que beaucoup, beaucoup de gens sont dans mon cas, c'est vraiment le grand favori pour la finale à l'Ouest, mais même pour le titre NBA. Hein, je pense qu'ils sont pour moi, enfin, en tout cas, dans mon esprit, ils sont au-dessus des Celtics. Ils ont montré l'année dernière qu'ils avaient énormément de certitudes. Il y a un côté de gestion de leur effectif cette saison qui a été bien senti, on va dire, même s'il y a quand même des interrogations sur la santé de Murray. Je pense, en fait, ça va dépendre de ça, en fait. Si Murray est en bonne santé, je les vois pas prenables et en fait je vois pas comment ni vous ni nous. Alors tu parlais effectivement et je pense que c'est vrai, l'année dernière Phoenix et les Wolves ont été les deux équipes qui ont le plus embêté, on va dire, même si les Lakers sur certains matchs ont quand même été capables de les gêner un peu.
Mais ils se font insulter,
je crois qu'ils avaient dit. C'est vrai, mais enfin il y a eu deux trois matchs où c'était quand même assez serré. Je crois qu'ils avaient dit eux-mêmes les Nuggets après le titre que l'équipe contre laquelle ils avaient eu le plus de mal c'était justement les Wolves, c'était vous. Effectivement,
dans
le côté où vous
aviez dit ça dans un podcast, il avait dit ça dans le podcast possible. Théo Pinson.
Ah, c'est ça, c'est Bruce Brown, t'as raison. Ouais, tout à fait, c'est ça. Bah, tout à fait. Et donc, du coup, oui, ces éléments-là, ils sont vrais. Mais après, là où c'est radicalement, enfin, les situations sont radicalement différentes pour Phoenix et pour Minnesota, c'est que vous, c'est vraiment, il y a une continuité. Hein. C'était l'année 1 de ce projet-là, là, avec Rudy Gobert. Et c'est quasiment le même effectif.
C'est un run it back. Vous aussi,
exactement.
C'est un run it back.
Nous, au contraire, à part Durant et Booker, tout le reste de l'effectif a changé, en fait. Le coach a changé aussi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent, en fait, quoi.
Pour moi,
donc, effectivement, il y a un côté.
C'est similaire. Enfin,
Oui, parce que Booker et Durant, t'as raison. C'est le même projet, effectivement. Par contre, c'était vraiment l'embryon de ce projet-là. Si tu veux, c'est un peu comme si vous aviez récupéré Gobert avant la fin de la saison précédente, tu vois, et que ça avait été le début de. Enfin, tu vois, bon, c'est pas très comparable, pour te dire que c'était difficilement. Enfin, moi, l'année dernière, j'étais vraiment très inquiet sur les playoffs des Suns parce que pour moi il y avait aucune construction d'effectifs puisque Durant était arrivé 3 semaines plus tôt, enfin un mois plus tôt, et que, enfin 2 mois plus tôt en l'occurrence, mais qu'il avait joué que 8 matchs avec Kevin Booker, avec Chris Paul, avec l'effectif, quoi. Donc effectivement il y avait un côté inconnu complètement. Là on a plus d'éléments aussi pour juger ce que sont les Suns aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Greg, rapidement, avant qu'on passe à la suite?
Oui, complètement. Il y a davantage d'éléments. Quand même, on puisse être frustré par le fait qu'on n'ait pas joué autant de matchs au complet qu'on aurait voulu. Je crois qu'il y a sur le 5 majeur, on doit être à un petit peu plus de 1000 possessions jouées ensemble. J'ai les chiffres devant moi. Ouais, voilà, 1044. Par exemple, comparé à Minnesota, aux 5 majeurs de Minnesota, ils sont à 1275, 1923 pour le 5 majeur de Denver. Donc clairement, on aurait aimé qu'on soit plus dans les 1500 possessions jouées ensemble parce que ça donne de la fluidité au jeu et ça fait des bases plus solides pour construire. Mais bon, on les a pas, mais enfin, c'est déjà mieux que les 17 matchs que nos deux 5 majeurs principaux avaient joué ensemble l'an dernier avant les playoffs, clairement. Ouais.
Ah ben, on était un peu sur la même dynamique, nous, puisque Kat a manqué quasiment 60 matchs et il revient pour les playoffs. Enfin, Donc ouais,
Ouais,
on avait
j'avais oublié ce
un
détail, mais
en fait
ouais.
tout le monde disait est-ce que ça va marcher entre Kat et Gobert? Et au final l'échantillon était trop faible, ils avaient pas joué à peine 20 à peine 20 matchs. Donc et puis je pense que force est de constater que cette saison voilà, c'est passé rapidement, on a pris bien la foudre quand on a fait le trade et tout le monde disait mais non, c'est small ball et tout. Et quand on voit les Warriors dont la dynastie est, on va dire, pour le poliment, quasiment finie, qui était dans le small ball, et que Steve Kerr dit il faut mettre du big, il faut prendre de la taille, bah au final, j'allais dire Tom Thibodeau, lapsus révélateur, Tim Conley avait eu le nez creux là-dessus. Et c'est, je vois aussi, du coup, les thèmes du podcast. Il y a la défense, la raquette. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le match va être gagné, en tout cas la série va être gagnée ou pas, avec Rudy et Kat. Voilà. Je pense. Plus que Anthony Edwards
Ah bah
ou Jaden
écoute,
McDaniels. Pour moi, c'est
ah mais c'est
catégorique.
intéressant et c'est un bon teasing de la deuxième partie de cette émission, donc c'est parfait comme transition,
Transition toute trouvée.
Léo. On va la garder et après une petite pause, on va donc passer à la suite. On est de retour dans Valley Hoop et on va donc se projeter sur le match-up proprement dit entre les Suns et les Wolves. Peut-être dans un premier temps essayer de moi je enfin alors je ah, pour être tout à fait franc avec vous chers auditeurs, il y avait un conducteur qui avait été fait avec brio et talent par notre ami Greg. Mais moi j'avoue il y a un truc vraiment sur lequel j'ai envie de commencer cette preview parce que c'est je sais pas si c'est le truc fondamental, mais c'est vraiment le truc où il y a des gros signaux partout autour là sur cette série. C'est vraiment l'opposition de style entre la meilleure défense de NBA cette saison, vraiment une défense notamment sur le demi-terrain qui est absolument exceptionnelle, et alors loin d'être la meilleure attaque de NBA cette saison. Par contre, une attaque vraiment de feu quand les trois tournent à plein, quand les trois sont ensemble sur le terrain, donc le fameux Big Three Durant, Booker et Bill. Une attaque qui est vraiment la qualité principale des Suns, évidemment, on l'a vu cette saison, notamment d'ailleurs dans les matchs face aux Wolves. J'ai envie de vous interroger sur cette opposition-là entre les deux. Est-ce que selon vous, c'est vraiment le point central, le facteur X, mais enfin plus, on va dire, de la série? Est-ce que tout va jouer de ce côté-là du terrain, donc entre l'attaque des Suns et la défense des Wolves? Est-ce qu'il faut que les Wolves arrivent à arrêter l'attaque des Suns pour remporter cette série? Ce sera la première question que je vais te poser, Léo.
J'ai le sentiment, je suis curieux d'avoir votre avis aussi là-dessus, j'ai le sentiment qu'une très bonne attaque sera toujours plus forte qu'une très bonne défense. Donc comme si là, lors du dernier match de saison régulière, match 82, vous plantez tout, vous êtes insolent de réussite, on pourra avoir la meilleure défense, ça changera rien. Maintenant, ce qu'on peut contrôler dans un match de basket, c'est les shoots, ça rentre, ça peut ne pas rentrer, il y a des nuits avec, des nuits sans, mais la défense doit tout le temps être là et c'est la défense, hein. Je pense qu'on peut le dire, qui fait gagner des championships. Donc, moi, je redoute. Hein, j'ai confiance dans notre défense, mais je redoute des coups de chaud de joueurs exceptionnels, parce que c'est le cas hein, de Kevin Durant, qui est, allez, pour moi, hein, je dis pour moi, top 10 de tous les temps en termes de talent. Je ne parle pas évidemment de palmarès, mais je parle en termes de talent, un joueur comme ça, d'ailleurs, qui est le GOAT hein, de Anthony Edwards, c'est Kevin Durant. Hein. Anthony Edwards, le joueur préféré de Ant, c'est Kevin Durant. Hein, devant Jordan, devant LeBron et tout. Il discutait sur Team USA, il disait ça va être incroyable de jouer avec mon GOAT et des super joueurs comme Steph et LeBron. Donc il y a de l'admiration, il y a du respect. Mais voilà, moi je pense que. Comment dire? C'est un peu vous qui allez, si vous voulez, en fait, si on dicte pas le rythme et le tempo et l'agressivité, c'est vous qui allez le faire et je pense qu'on va pas gagner à ce jeu-là. Donc,
D'accord.
quand Greg parlait tout à l'heure d'entame de match incandescente, c'est le cas de dire pour des Suns, voilà, je pense que dans les 45 minutes de vision et de visio et d'analyse que Finch fait par jour, ils ont entouré ce phénomène-là. Et ça va être très intéressant.
Ouais, ça correspond en plus à une force des Suns, on l'a dit un peu plus tôt. Et effectivement, sur ce côté-là, hein, il y a vraiment un truc. Quand les Suns attaquent fort, à tous les, enfin vraiment littéralement, c'est-à-dire démarrent fort, mais démarrent fort en attaque un match. Généralement, il y a de bonnes choses qui se passent derrière. Greg, toi, de ce côté-là du terrain, donc l'attaque des Suns face à la défense des Wolves, à quoi tu t'attends? Et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que t'as noté
Ben,
de défini?
ce que j'ai noté vis-à-vis des trois matchs qu'on a eus ensemble cette saison, et que bon, malheureusement, c'est le seul échantillon qu'on a, donc même si je trouve ça insatisfaisant, je me base dessus. Je pense que l'attaque des Suns sur les 29 autres équipes affrontées par les Timberwolves est la seule attaque qui est vraiment de l'ordre de la kryptonite pour cette défense de fer. J'ai l'impression que tout est fait dans la défense des Timberwolves
C'est
pour
pas mal vu,
défendre merveilleusement la raquette et le shoot à 3 points. Or, les Phoenix Suns, leurs trois attaquants élites, Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, sont élites à mi-distance. Et en plus, tu rajoutes Grayson Allen, Eric Gordon, Devin Booker, Kevin Durant qui sont capables de shooter à 3 points, plus Bradley Beal qui est capable de driver, mais aussi Kevin Durant qui a eu des très bons pourcentages en début de saison sur ses drives, et Devin Booker qui est également très bon sur ses drives quand il décide de finir au cercle et d'aller chercher des fautes. Donc pour moi, cette attaque des Suns, elle est insolvable dans la défense qu'a installée Finch sur toute la saison, et je pense que ça prendrait trop d'ajustements profonds à Finch et à son collectif pour arriver à corriger facilement, en tout cas sur une série en 7, cette défense pour qu'elle s'adapte à l'attaque des Suns. Donc pour moi, la clé pour les Timberwolves, pour inverser la question, on est dans un podcast des Suns, mais du coup, je vais faire une analyse du côté des Wolves. Je pense que la clé pour les Wolves, c'est plutôt d'avoir un rendement offensif en attaque qui leur permet de passer au-dessus d'une défense des Suns qui, pour l'instant, leur pose problème. Mais elle leur pose problème parce que Karl-Anthony Towns a été absent pendant un match et plutôt moyen sur le dernier match ensemble, et
T'es
aussi
gentil, t'es
parce que
gentil quand
Anthony Edwards, ouais, non, mais
tu
c'est vrai, non, ouais, mais c'est vrai, sur trois matchs, il est là un match et demi. Sur le
Non,
match
il
précédent,
était
moi
plus
je
que
l'ai,
moyen.
ouais, je l'ai pas trouvé mordant sur le dernier match pour 4, et honnêtement, c'est une autre blague que j'avais marquée sur mon carnet, et je l'avais pas trouvé mordant le chat, mais. Je pense qu'il a largement de quoi faire. Imagine, il monte à 40-42%. Notre défense, elle va être obligée de s'étirer. Et quand on double sur les drives d'Anthony Edwards, on ne pourra plus le faire parce qu'il y aura la menace Karl-Anthony Towns. Donc,
C'est ce qu'on disait
effectivement,
tout à
Anthony
l'heure.
Edwards n'est pas le meilleur passeur playmaker de la ligue. Il a fait d'énormes progrès cette saison. Mais enfin, la moindre passe qui va sortir vers Karl-Anthony Towns, ça va être un 3 points de sanction, de la même façon que chez nous, ça le fait avec Grayson Allen. Donc, pour moi, la
C'est ça.
match-up se joue moins sur la défense des Wolves face à l'attaque des Suns, mais plutôt sur l'attaque des Wolves face à la défense des Suns.
Mais
C'est
c'est intéressant. Bon, on
intéressant.
va y passer dans un instant à ce côté-là du terrain, parce qu'effectivement,
Vous pensez
je suis
pas
assez d'accord avec
que...
vous.
Pardon, excuse-moi, Rodolphe, vas-y, vas-y.
Vas-y.
Non,
Bah,
je me
en fait, moi,
demandais
l'élément que je
justement...
voulais donner, en fait. Vas-y,
Vas-y.
vas-y, pose ta question.
Non, je voulais vous demander si justement Greg parle du fait que c'est éventuellement trop tard pour faire des ajustements. Est-ce que vous pensez que ça vous déstabiliserait une défense de zone, ou est-ce que c'est un faux ami parce que vous êtes trop adroit, ou que sais-je? Je me demande si Finch va pas faire justement des paris s'il voit que ça ronronne trop, quoi. Tu vois, un petit jeu de mots avec 4.
Mais le truc sur la défense de zone, c'est que en fait, tu as Nurkic qui est un passeur d'élite, et tu as Bill qui cut très bien backdoor, tu as Booker qui est très fort aussi sur les
Pour les
sur
attaquer, ouais, c'est pas
ouais,
mal.
pour les attaquer ces zones. Donc en fait, on a la réponse à cette défense. On a aussi la réponse.
Il y a des équipes qui ont tenté des zones contre nous en saison régulière et ça s'est pas, enfin, voilà, ça a pas été quelque chose qui a été vraiment très concluant pour les défenses adverses parce qu'effectivement assez rapidement généralement on arrive à en sortir. Après, bah tout dépend. Voilà, il y a différentes zones. On sait que celle de Miami est tellement bien exécutée qu'elle fait vraiment pied, tu vois.
C'est
Voilà,
vrai.
si vous arrivez à proposer quelque chose en termes d'intensité et de couverture qui est vraiment élite, ça peut peut-être déstabiliser un peu les Suns, parce qu'effectivement, pour finir sur ce point-là, avant de passer au côté attaque des Suns contre la défense, attaque des Wolves contre la défense des Suns, donc du côté attaque des Suns contre la défense des Wolves, effectivement, ce qu'a dit Greg et je pense le point central de tout ça, il y a un côté kryptonite, il y a un côté en fait le piège de la défense de Minnesota, c'est effectivement d'amener l'adversaire à jouer plus de mid-range que d'habitude, sauf que nous ça nous convient très bien, donc
Non.
effectivement il y a un souci là-dessus, et en plus on est plus adroit a priori que beaucoup d'équipes dans cette zone-là du mid-range. J'ajouterais qu'il y a un autre élément, et ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui va nuancer un peu la domination qu'on a eue en attaque sur la défense des Wolves cette saison. C'est que sur les matchs qu'on a joués, les trois matchs, les fameux trois victoires de Phoenix, il y a eu quand même une grosse surchauffe, on va dire, à trois points, parce que on l'a dit, un des objectifs de la défense de Minnesota, c'est de te faire prendre moins de trois points. Donc les Suns sont pris, je crois, 4-3 points de moins en moyenne sur les matchs contre Minnesota que sur l'ensemble de la saison, on va dire, mais avec une réussite complètement insolente à 48%, je crois, j'ai noté 48,8%, c'est ça. Donc sur les trois matchs en cumulé, quoi. Donc c'est complètement dingue, et on peut raisonnablement penser aussi qu'elle sera pas aussi élevée là sur toute la série de playoffs. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut aussi permettre de rééquilibrer les choses, parce que pour le coup, on peut penser que, vu que nous le mid-range, ça nous convient, si en plus on met tous nos shoots à 3 points, vous n'avez pas de solution, en fait, quoi. Mais par contre, effectivement, si vous arrivez à bien défendre et qu'on n'est pas en réussite, ça rééquilibre peut-être des choses de ce côté-là du terrain. Alors de l'autre côté, donc du côté défensif, moi, la première question que je voulais te poser autour de ça, justement, on en a parlé un petit peu, Léo, mais c'est autour de Hunt. On a l'impression que les Suns ont un peu trouver le moyen de limiter. En tout cas, il y a cette fameuse stat qui dit que il a mis que 43 points donc en 3 matchs en 42 tirs contre Phoenix cette saison, donc c'est vraiment pas fou, quoi. Et c'est même limité son nombre de tirs, hein, parce qu'il est qu'à 14 tirs de moyenne contre les Suns cette saison, alors qu'il est à presque 20 tirs, je crois, en moyenne par match sur la saison. Donc il y a vraiment un truc. Toi, comment tu vois les choses de ce côté-là, sachant qu'on n'a pas un défenseur fou en point d'attaque, c'est plutôt une organisation collective autour de ça. Est-ce que ça t'inquiète, le fait qu'on arrive à peu près à limiter Hunt?
Ça devrait inquiéter. Et je dis devrait, je parle au conditionnel, parce qu'il l'a dit lui-même, en fait, et Greg l'a évoqué aussi un peu, c'est plutôt autour de 4 que tout va se jouer. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vous verrez demain, je pense ne pas me tromper. Je serais curieux de...
Ah, tu fais bien d'insister.
Mais je pense que on va avoir un Hunt justement qui va pas trop forcer, qui va être plus créatif. Je vois qu'on va évoquer est-ce que Hunt va driver. Je pense qu'il a pris la mesure de l'importance de ce match-là et qu'il va pas forcer. Voilà. Je pense qu'il va pas forcer. Il va tenter, il va tout de suite sentir s'il est en confiance et tout. Mais sinon, il va se muer. Il l'a fait plusieurs fois cette saison. En point end, hein, un peu en meneur, et lui qui remonte la balle, lui qui va créer, lui qui va attirer les défenseurs pour passer à 4. Et on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a un autre joueur qui est assez adroit chez nous, qui a en high volume de 3 points, le meilleur de la ligue cette saison, c'est Mike Conley. Donc voilà, moi je pense que Hunt va pas forcer demain. Il y aurait eu un quatrième match des Suns, il aurait forcé en saison régulière, il aurait forcé pour dépasser le plafond de verre qu'il a eu, que tu as évoqué, même pas 15 points par match contre vous. Mais là, je pense qu'il a compris l'importance du match de demain et il forcera pas, à mon avis.
Ouais, donc c'est un peu plus que ça, parce que 42 divisé par 3, donc ça fait quoi? Ça fait 16?
Ouais, c'est un peu, c'est pas dans sa moyenne.
C'est
quoi.
Pas fou. C'est pas fou. Ah ouais, c'est pas fou. non, c'est un peu plus que ça même, du coup. 18.
C'est qui le joueur qui vous fait le plus
effectivement, 18.
Dans notre effectif, je serais curieux. Parce que les Warriors.
Sur ce côté-là, sur le côté.
Ouais, non, non.
Ouais, mais sur le côté de l'attaque, je t'avoue que.
En X-Factor, parce que les Warriors et les Kings détestent Naz Reid. Greg et toi, Rodolphe, vous avez parlé de Jaden McDaniels. Voilà, personne parle souvent de Kyle Anderson, pourtant c'est notre colle. C'est lui qui colle un peu tout le monde. Voilà, j'étais curieux d'avoir votre perspective là-dessus, vu qu'on parle des match-ups et de comment ça va se décanter demain.
Alors c'est un point intéressant, et pour moi ça va un peu avec l'histoire de votre attaque contre notre défense. Moi vraiment, pour moi c'est Naz Reid, dans le sens où il assure vraiment cette saison quelque chose qui a été très important, hein, dans vos bonnes performances, c'est cette espèce de continuité là à l'intérieur, le fait d'avoir toujours cette solidité, hein, à l'intérieur, avec dans le meilleur des cas souvent deux des joueurs entre Reid, Gobert et Towns sur le terrain, quand les trois sont disponibles, quoi. Et effectivement, Naz Reid, il a fait une excellente saison. On sait que c'est un bon attaquant, et on sait qu'il est capable d'écarter aussi, donc il est capable de, c'est pour ça qu'il a été capable de se muer en poste 4 assez souvent. Mais le souci, moi, principal qui me pose Naz Reid, c'est que je vois pas de possibilité ou les minutes où il est sur le terrain, on peut lui proposer, enfin, on peut lui opposer un remplaçant de son niveau à l'intérieur, quoi. Il y a vraiment ce problème-là. Nous, c'est vraiment notre gros point faible, hein, la rotation à l'intérieur derrière Nurkic, qui fait une bonne saison presque inespérée, hein, vu ses états de service sur les dernières années. Derrière Nurkic, c'est vrai que c'est un peu le désert. En tout cas, Eubanks a beaucoup déçu par rapport, on va dire, à ce qu'on attendait de lui en termes de, au moins, de régularité, quoi. Et derrière, donc, il y a eu l'arrivée de Thaddeus Young là en buyout, mais bon, pour l'instant il n'a pas joué grand chose. Il devrait être utilisé en playoff, mais quelle est vraiment sa capacité à rester sur le terrain dans des situations de playoff, j'en ai vraiment aucune idée, surtout face à un Nazrid qui pour moi vraiment est, bah oui, il a cette gueule de Factor X, parce que bah, dans ces moments-là, ces minutes, on va dire, sans Gobert ou sans Kat, il peut vraiment apporter une espèce de continuité qui va nous faire défaut dès que Nurkic sortira du terrain, en fait, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète.
Il est en
Greg, qu'est-ce
tête
que tu
de
réponds à
liste pour être sixième homme de l'année, hein. J'ai vu les premiers
Oui, ah oui,
records.
moi j'aurais voté pour lui, hein, personnellement. Bah, après, j'ai pas très très bien suivi la NBA hors Suns cette saison, mais moi, bah, après, j'aime beaucoup le joueur, mais j'aurais voté pour lui cette année parce que je trouve qu'il a un impact énorme. Et qu'en fait, voilà, encore une fois, si vous êtes si fort, c'est aussi parce que vous avez un sixième homme de cette qualité-là et de ce profil-là, en fait, quoi. Ça joue beaucoup, en fait, quoi.
Bah, Nazrid, c'est le facteur physique en sortie de banc pour les Wolves, parce qu'on aurait tendance à vouloir presque résumer le facteur de la physicalité et de la puissance des Wolves, qui est hyper important dans leur collectif, au trio Karl-Anthony Towns, Gobert, Anthony Edwards. Mais en réalité, c'est plutôt Jaden McDaniels, Gobert et Nazrid, et en plus Anthony Edwards, évidemment, qui pour moi font cette espèce d'axe hyper physique, hyper dur. Et clairement, les Wolves ont de quoi appuyer là où ça fait mal pour les Suns, parce que les Suns ont du mal à encaisser cette physicalité. Et le rôle de Nazrid là-dedans, c'est d'être un dynamiteur en sortie de banc. En sortie de banc, ça on en rediscutera, mais en tout cas sur des minutes très importantes, parce que dès qu'il va rentrer sur le terrain, contre Nurkic, il va faire mal à Nurkic, mais surtout contre Eubanks. La dimension physique face à Eubanks a beau être un col bleu qui va tout donner et qui sera prêt à mourir contre Nazrid, il va se faire fumer. Et ne parlons même pas de Thaddeus Young, qui est quand même un cran au-dessus en termes de rapport poids-taille par rapport à Nazrid, et qui clairement va se faire rouler dessus. Donc Nazrid, qui serait titulaire dans, je pense, à peu près une vingtaine ou une quinzaine d'équipes NBA, si ce n'était pas les Timberwolves, troisième de la conférence Ouest, il a clairement une carte à jouer, Chris Finch, s'il mise sur son sixième homme. Clairement, moi, je pense que c'est le joueur, je te rejoins, Rod, volontiers là-dessus. Je pense que pour moi, c'est le joueur qui me fait presque le plus peur en tant que facteur X du côté des Wolves. Parce qu'on peut discuter de Mike Conley, de son QI basket et de sa faculté de playmaking si jamais les Wolves ne se retrouvent pas dans leurs sets habituels. Mike Conley pourra improviser des trucs avec Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns autour de lui. D'accord, très bien. Mais Nazrid peut vraiment, vraiment faire mal, quoi.
Et effectivement, il y a vraiment cette question-là de la réduction de la rotation, hein. Nous, on est un peu dans l'inconnu là-dessus, parce qu'on sait pas, jusqu'où Vogel va pouvoir aller par rapport à ça. On sait pas quelle est l'autonomie de Nurkic réellement au-delà de 30 minutes de jeu. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ça. En fait, il y a aussi cette donnée-là du niveau physique. Sur l'attaque plus généralement des Wolves et la défense des Suns, est-ce qu'il y avait un autre point? Bah, peut-être, Greg, je vais te repasser la parole là immédiatement. De ce côté-là du terrain, est-ce qu'il y avait un autre point qui te paraissait vraiment crucial là à observer en vue de cette série?
Sur les points forts des Wolves par rapport aux points faibles des Suns, je pense que c'est le côté friable de la raquette des Suns qui doit être complètement un terrain de jeu pour Anthony Edwards. Et c'est une des clés d'un succès éventuel des Wolves, que je ne souhaite pas, évidemment. Mais
ah
c'est
bon
clairement, c'est clairement.
Ah bon?
Si Anthony Edwards trouve les clés de la raquette des Suns, de la façon dont LeBron James les a trouvées cette saison, bon, il va faire au moins trois matchs à plus de 45 points. Au moins. Enfin, je veux dire, il suffit qu'il trouve la clé pour que ça fonctionne. Là, à ce jour, sur les trois matchs qu'on a vécu pendant la saison régulière, effectivement, Frank Vogel a très bien utilisé les lignes extérieures des Suns en défense pour contenir Anthony Edwards, sachant que Mike Conley n'est clairement pas une menace dans la raquette. Mais du coup, au relais, Grayson Allen, Bradley Beal et Devin Booker ont tous fait un boulot suffisant pour que Anthony Edwards ne représente pas une menace terrible pour les Suns dans la raquette. Néanmoins, on peut mettre aussi ça au crédit de l'irrégularité d'Anthony Edwards dans l'agressivité, qui est encore un de ses points faibles de cette saison. Et j'ai eu l'impression, notamment sur le premier match contre nous, peut-être parce qu'il était fatigué de ce back-to-back, nerveusement et physiquement, qu'il avait eu du mal à rentrer dans son match et donc forcément à rentrer dans la tête des défenseurs des Suns. Enfin, s'il se décide sur une série en 7, si Chris Finch lui crie dans les bronches parce qu'au match 1, il ne l'a pas fait du tout, à mon avis, au match 2, ça va être beaucoup plus compliqué de le maintenir, quoi.
Ouais, ben en plus, pour moi, ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une donnée importante un levier en tout cas que les Wolves peuvent activer autour de ça, parce qu'effectivement il y a cette question de la physicalité. On est face à une des équipes les plus physiques de la NBA avec les Wolves, et pour moi il y a cette dimension autour de Edwards d'espèce d'animal qui va pénétrer ta raquette avec ce premier pas vraiment dévastateur et tout. Moi je me souviens de matchs, alors pas cette saison du coup, mais plutôt les saisons précédentes face aux Wolves, où Edwards, on n'arrivait pas à le tenir, quoi. C'était infernal, et pendant tout le match, on était à subir justement notamment ces drives, quoi. Et d'une manière générale, toi, Léo, comment tu vois cette opposition physique? A priori, l'avantage est quand même pour vous, mais il y a quand même du répondant côté Suns. Est-ce que justement, ça peut être aussi un angle d'attaque pour Minnesota de vraiment jouer dur, quoi?
Par rapport à tout ça, la dernière victoire, en tout cas, Anthony Edwards a un bilan de 10 défaites et une victoire contre Devin Booker en carrière. Et la victoire, c'est quand Kat et lui mettent plus de 40 points chez vous en 2021. Donc ça commence à remonter. Et je suis assez d'accord sur l'aspect physique et la dimension physique. Hein. On n'est pas au rugby, mais c'est sûr que. Et on va peut-être en parler, on a effleuré un peu le sujet, mais Rudy Gobert va être important aussi. Je pense que vous nous avez détruit au rebond aussi. Tout le monde a parlé des trois points et de l'écart, mais je trouve qu'on s'est fait manger au rebond contre vous cette saison en tout cas, et lors du dernier match. Donc là, c'est pas normal que Rudy termine avec 5 rebonds contre vous. Et 4, il a terminé avec 6 rebonds. La dimension physique, elle passe par là aussi. C'est les quatre facteurs. Hein. Il y a les lancers francs, la réussite au tir, les turnovers et puis les rebonds. Et c'est un angle d'approche intéressant, je trouve, parce que vous parlez de physicalité. Et je pense que un des tournants, une des clés du match, c'est le rebond. Et on a été mangé, il faut le dire, par les Suns cette saison au rebond.
Et ce qu'on peut dire d'ailleurs sur cette question des rebonds, c'est qu'effectivement il y a peut-être un côté kryptonite un peu avec Phoenix. Alors après c'est un peu particulier, mais dans le sens où vous êtes une équipe qui cette saison, j'ai l'impression en tout cas, s'attache vraiment à surtout protéger le rebond défensif, et inversement de l'autre côté du terrain va pas trop jouer le rebond offensif parce qu'elle privilégie le repli, quoi. Moi c'est un peu l'impression que j'ai de l'extérieur.
Ça,
je sais pas si tu es d'accord avec ça.
Ça c'est parce que c'est un traumatisme de la saison dernière où au point faible, je dirais récurrent et chronique. Vous parlez de kryptonite, j'aime beaucoup Superman. Ouais. Mais le point faible, c'était la transition, la défense en transition. On était
ouais, parce que vous récupériez pas le pseudo. Ouais, ah ouais, c'est intéressant.
Mais on s'est fait ouvrir. Il n'y a pas d'autre mot par Denver là sur cet aspect-là. Sinon, on est
ouais, sur le
contrôle. Hein, mais c'est la transition défensive. Et je pense qu'ils se sont dit. Bon, on n'est pas capable de faire ça, donc ce qu'on va insister cette année, c'est très vite se replier. Voilà,
sécuriser.
Je le vois comme ça en tout cas. Hein.
Ouais, mais clairement, et c'est l'impression que ça donne en tout cas quand on regarde un peu les chiffres et quand on regarde un peu aussi ce que ça donne sur le terrain. Et donc du coup, si on compare ça un peu aux forces des Suns cette saison, c'est pas que ce soit l'inverse, mais nous c'est plutôt nos points faibles. Notre point faible, c'est qu'on est parfois un petit peu attentiste, parfois un petit peu indolent sur le rebond défensif. Et notre point fort, c'est qu'au contraire, on est plutôt opportuniste et assez teigneux sur le rebond offensif. Donc en fait, bizarrement, comme vous jouez pas trop le rebond offensif, vous profitez pas de notre faiblesse relative au rebond défensif, et inversement, votre force au rebond défensif est un peu gommée par le fait que nous, c'est quand même une de nos forces, le rebond offensif, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un équilibrage du côté du rebond qui est plutôt à votre désavantage. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Greg?
Oui, complètement. Et ça rentre un peu dans ce que je disais préalablement à propos des Suns étant une sorte d'équipe kryptonite des Wolves. C'est que en fait, tous nos points forts tapent exactement là où sont les points faibles des Wolves, ce qui est moins le cas à l'inverse. C'est-à-dire les points forts des Wolves tapent moins sur les points faibles des Suns, mis à part l'attaque des drives et de la raquette par Anthony Edwards. Mais c'est clair que sur la bataille des rebonds, ça va être clé. Celle-ci et celle des turnovers, c'est deux clés. Deux nouvelles clés de cette série, et c'est bien qu'on puisse le débunker un peu. C'est vrai que les Suns, sur le rebond défensif, en tout cas quand Yusuf Nurkic est sur le terrain, on arrive à bien les box-out et on arrive à bien défendre notre gain. Et du coup, on offre finalement peu de seconde chance à une équipe comme celle des Wolves. Et comme on a des points par possession qui sont supérieurs, si les Wolves n'arrivent pas à récupérer des possessions suite à leur tir manqué, à possession égale, eh ben, en fait, on gagne mécaniquement, ou en tout cas, on a une chance de gagner mécanique qui est plus élevée que celle des Wolves. Maintenant, sur le rebond offensif, et on l'a vu particulièrement sur cette fin de saison, on a des gens comme Yusuf Nurkic, Bradley Beal et Devin Booker et Grayson Allen dans une moindre mesure, qui sont hyper agressifs sur le rebond offensif. Là, Bradley Beal, sur les 5 derniers matchs, on dirait Josh Okogie au rebond offensif. Il est vraiment hyper
bon opportuniste, Josh,
toujours bien placé.
Bon coco.
Ouais, Josh Okogie. Eh oui, Josh Okogie qui a fait les grandes heures.
On n'avait pas encore prononcé son nom, mais c'est clairement notre point commun, c'est l'amour de Josh Okogie.
Ouais, exactement. Ah
bah, vous savez qu'on a 37 joueurs qui sont passés chez les Wolves et les Suns, hein, notamment, tu parlais de Tadeusz.
Ouais, mais celui-là, pour le coup, il y a quand même un petit côté affectif. Moi, franchement, Josh, c'est mon chouchou là dans l'effectif actuel, c'est le joueur que je préfère. Quoi.
Bah, je fais une parenthèse sur ce que tu viens de dire, Léo, mais il y a eu une époque où Kevin Garnett était pressenti pour être transféré aux Suns à l'époque où Steve Kerr arrive en general manager. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à la bataille des rebonds, il y a aussi celle des turnovers qui est très, très importante. Les Suns sont une équipe qui concède beaucoup, beaucoup de turnovers. Mais pour l'instant, dans la bataille des turnovers face aux Wolves, c'est les Suns qui gagnent. Et surtout, il y a une vraie faculté chez les Suns à rentabiliser ces turnovers. Il y a vraiment des points, un certain nombre de points très importants qui sont inscrits en fast break suite à des pertes de balles des Wolves. Et ça, c'est bien parce que ça va fatiguer les intérieurs des Wolves parce que ça les oblige à retourner en défense pour essayer de s'organiser. Et ça nous permet à nous de prendre des points rapidement et sans avoir la défense des Wolves, aussi friable soit-elle face à notre attaque, lui laisser le temps de s'organiser, quoi.
Ouais, bah c'est un point assez crucial. C'était une très bonne transition d'ailleurs, parce que je comptais parler de la turnover, et je vais t'interroger dessus du coup Léo. Mais l'autre élément qu'on peut donner, c'est qu'effectivement c'est un point faible de Phoenix, hein, clairement, les pertes de balles cette saison, mais c'est aussi plutôt un point faible de Minnesota, hein. Je crois que la stat, c'est que les deux équipes sont dans les 10 pires équipes de la NBA sur les turnovers et qu'il n'y a pas énormément de différence aux moyennes. J'avais noté 14,9 pertes de balles en moyenne par match pour Phoenix et 14,2 pertes de balles en moyenne par match pour Minnesota, donc c'est assez proche.
On bat le record de la saison.
Oui, avec 19 en première mi-temps,
ce qui est complètement dingue. C'était n'importe quoi. Voilà.
Mais effectivement, ça hausse un peu justement la stat qu'avait donné Greg un peu avant, c'est-à-dire que dans cette match-up là sur la saison régulière, clairement on a dominé sur la bataille des turnovers, et donc du coup ça a fait que mécaniquement on a été au-dessus. Tout ça pour dire qu'effectivement c'est quand même entre deux équipes qui ont tendance à perdre le ballon pas mal, et c'est un des modes de punition généralement de leurs adversaires, des équipes qui les battent, c'est de profiter des turnovers. J'ai envie de dire oui, ça va être crucial en fait, presque l'équipe qui va le moins de ballon va gagner la série, quoi. J'ai un peu l'impression, cette impression là de loin. Est-ce que tu as la même impression, Léo? En tout cas, est-ce que pour toi c'est un aspect vraiment crucial de la série?
Je me permets de faire une petite aparté par rapport à ça. On surpense bête, on a tout un tas de stats et on met les second chance points et les points of turnovers. Donc c'est vraiment ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que on peut reprendre le rebond pour gagner une possession, est-ce que on peut utiliser les pertes de balles pour punir l'adversaire. J'inviterais tout le monde à aller voir un peu ça sur le site. Et oui, en fait, tout simplement, c'est l'épée de Damoclès, c'est la kryptonite, on peut appeler ça tout ce qu'on... comme on le veut. On a été, je trouve, cette saison, sur les matchs importants, globalement propres. Je pense aux deux matchs contre les Celtics, notamment. Mais Mais voilà, encore une fois, ça a tellement, et là je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, ça a tellement résonné dans la tête des fans et dans la tête des joueurs, hein, ce non-match contre vous, au match 82, que l'accent va être mis, à mon avis, sur protéger la balle, enfin, en tout cas, faire moins perdre de balles, être plus agressif au rebond. Donc pour le coup, ça, je pense vraiment qu'ils ont mis l'accent là-dessus. Mais oui, les pertes de balles, c'est, je regardais justement sur les quatre facteurs cette saison, on est en égalité, c'est-à-dire qu'on vous nous dominez à la réussite au tir et au rebond, et on vous domine légèrement sur tout ce qui est lancer franc et turnover. Mais sur les 10 derniers matchs, ben vous nous dominez sur 3 des 4 facteurs, c'est-à-dire la réussite au tir, les lancers francs, les pertes de balles. Vous êtes plus efficace et nous, on vous domine au rebond. Mais voilà, on est dans cette logique-là de ce que tu viens d'évoquer et de ce que Greg évoquait. Moi, je ne suis pas inquiet là-dessus, pour le coup.
Ouais, bah après, moi, voilà.
Je vais juste donner une petite stat, Rod. Le seul match où on donne des turnovers à hauteur de ce qui nous a vraiment coûté cette saison, je crois que c'est dans le deuxième match contre vous. On donne 18 turnovers, on perd 18 fois la balle contre vous. Mais en fait, le truc contre les Wolves, c'est que les Wolves se montrent incapables de rentabiliser ces turnovers puisqu'ils ne marquent que 14 points sur les 18 turnovers qui sont donnés dans ce match-là. Et en fait, le jeu en transition des Wolves paraît relativement faible face aux Suns, en tout cas. Et du coup, la bataille des turnovers pencherait, en tout cas, c'est ma vision des choses, hein, mais pencherait plutôt en faveur des Suns, quand bien même les Suns aient un volume de turnover entre, disons, 10 et 15 cette saison. Quoi.
Ça s'entend.
Moi, vraiment, pour moi, on part pour moi sur un 50-50 dans ce domaine-là, parce que pour moi, en fait, je me suis rendu compte de ça là en faisant mes petites recherches. C'est autant, et tu l'as bien confirmé dans ton intervention, Léo, c'est autant une crainte pour vous que pour nous, à quel point les pertes de balles peuvent nous faire mal, en tout cas peuvent faire mal à l'équipe, donc peuvent faire mal aux Wolves comme peuvent faire mal aux Suns. Je pense que c'est un peu ce que je disais avant, c'est l'équipe qui s'en sortira le mieux sur cet aspect-là, qui risque de tirer son épingle du jeu sur la durée de la série, on va dire. Par contre, je serais bien en peine d'avoir un favori. Effectivement, a priori, je pense qu'il y aura plus d'attention portée sur ce détail-là du jeu au début de la série du côté de Minnesota, vu ce qui s'est passé lors du dernier match. Par contre, très vite, ça peut devenir un sujet très très important pour Phoenix, puisqu'on sait que depuis le début de la saison, ça a été un truc rabâché. Les pertes de balles, c'est ce qui nous tue dans l'Arizona.
Je me posais une question pour vous deux. Comment vous avez expliqué la première mi-temps, en tout cas le premier quart-temps catastrophique contre les Clippers il y a une semaine et demie, le premier match du contre les Clippers chez vous, où vous prenez un. Ouais. Comment vous l'expliquez? En tout cas, où est-ce que ça a peiné? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient insolents de réussite? Alors, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Parce que ça peut avoir une importance dans l'appréciation qu'on a de la série.
Eh ben, c'est plutôt une bonne transition dans le sens où c'est pas un sujet que j'avais spécialement noté dans les trucs qu'il fallait aborder, mais c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui va être diablement important. Ouais. Eh bien, vois-tu, je pense que l'unique responsable de ce qui s'est passé ce jour-là contre les Clippers, il s'appelle le mental, en fait, quoi. Et c'est un aspect qui est très très important du côté de Phoenix cette saison. Il y a un côté dans ces matchs-là, et c'est arrivé plusieurs fois, hein, quand ça veut pas rentrer. Quand tu te rends compte que ça fait trois shoots ouverts qu'on a, on les rentre pas. Il y a un espèce, alors c'est un peu à l'image de Booker qui a été beaucoup critiqué, on va dire, pour ces espèces de rage quit là contre les Mavs ou contre les Nuggets dans les matchs à élimination, quoi. Mais il y a un peu un côté comme ça avec lui qui déteint parfois sur son équipe. En tout cas, qu'on a vu en action plusieurs fois avec Phoenix ces dernières années, notamment cette saison. T'as des matchs où quand Quand, voilà, pour différentes raisons, mais notamment parce que ça ne rentre pas en attaque, l'équipe se frustre. Il y a vraiment un espèce de gouffre mental dans lequel elle peut s'enterrer et qui peut être, mais rédhibitoire pour la durée du match, en fait, quoi. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois cette saison avec Phoenix et qui est très, très inquiétant à l'heure des playoffs. On a vu une équipe plus combative quand même, justement, depuis cette dernière sortie de route là contre les Clippers, une équipe qui était déterminée à justement pas se laisser abattre. On a vu contre les Kings notamment où bah, on s'en sort un peu à l'arrache, alors que voilà, on aurait dû lâcher. Mais voilà, il y a, comment dire, je pense que sur l'ensemble de ce qu'on a vu en termes de production du côté des Suns cette saison, la donnée mentale influe beaucoup dans l'amplitude du résultat, on va dire. Et j'ai, enfin voilà, c'est un truc que je crains évidemment. C'est si vous arrivez, d'ailleurs, on l'a vu un tout petit peu dans le deuxième quart-temps, je sais pas si tu te souviens, mais
Oui.
de ce fameux match 82, à un moment où justement on commence à rater deux trois tirs, on commence à se frustrer un peu, et vous de votre côté, bah vous arrivez à enchaîner un peu, et du coup votre défense arrive enfin comme par magie à solidifier, à complètement lock in tout, et il y a une période de 4-5 minutes où on met pas un panier, où vous mettez un 16-2 ou un 16-3, quoi, et où effectivement c'est assez impressionnant. En fait, malheureusement, cette équipe-là, elle est capable de faire ça. Enfin, malheureusement pour nous, hein, heureusement pour vous, du coup,
Non, mais on est
mais
un peu dans le
malheureusement,
même
les
cas de
Suns, ils sont
figure. Hein.
capables de faire ça.
On est un peu dans le même
D'accord,
cas
c'est
de
intéressant aussi.
figure. Il y a notamment des matchs qui me viennent en tête. Le match en tout début de saison à Atlanta où on a, il me semble, si je me souviens plus bien, hein, on a plus de 20 points d'avance et on choke parce qu'on perd le mental et eux, ils prennent le match. Donc, on est un peu connu comme le loup blanc, c'est le cas de le dire, pour ce genre de méfaits. Donc, j'ai de la sympathie pour vous.
C'est intéressant, mais du coup, ça veut dire aussi que ça risque d'être les montagnes russes dans
Ouais,
cette série des deux côtés, parce que voilà, il y a
absolument.
une fébrilité, je pense. Bah, ça va aussi avec le fait que pour beaucoup, vos joueurs vont pas découvrir les playoffs, mais être dans cette situation-là, justement, d'avoir l'avantage du terrain et
Oui.
d'être dans une position où t'as pas trop le droit à l'erreur pour la première fois. En tout cas, pour Ant et pour Kat, c'est
Ouais.
clairement la première fois.
Puis Conley disait, là, il disait que pour lui, c'était sa dernière chance d'aller loin en playoff ou d'aller chercher quelque chose. Donc il y a de la pression aussi. Puis vous avez de la pression aussi parce que vous avez fait un sacré pari
Ah
quand
bah
même,
énormément.
d'avoir Devin Booker, de coupler Devin Booker avec Kevin Durant et Bradley Beal. Donc il y a beaucoup de pression de notre côté et du vôtre aussi au final. Donc
Des deux
malheureux
côtés,
vaincu,
clairement.
hein.
Ouais, bah c'est ça, on en est complètement là, hein, à l'image de ce qu'on peut voir dans d'autres séries du premier tour, par exemple celle qui oppose les Clippers et les Mavs, où il y a énormément de
Absolument.
pression et où voilà, le vaincu va passer vraiment un mauvais été. C'est exactement la même chose, effectivement, t'as raison, dans le cas de notre série. Et il y a vraiment aussi un côté, bah comment dire, effectivement aussi de validation, c'est-à-dire que dans votre projet, le fait de passer ou pas cette série va être très très important. C'est-à-dire que paradoxalement, alors que vraiment on a vu cette saison tout le bout de travail qui avait été fait autour du projet Rudy Gobert, quoi, paradoxalement, si vous perdez là juste parce que bah effectivement on est un peu votre kryptonite et qu'en fait c'est juste une question de match-up, ce qui est tout à fait probable malgré tout, en tout cas possible. Si ça arrive, on risque d'être dans des considérations, de revenir un peu sur ce qui a été un peu enterré, ce qu'on disait un peu à un moment, enfin ce dont tu as parlé un peu dans cette émission,
Ouais.
c'est-à-dire que au moment du trade de Gobert, il y a eu mais des sauts de merde qui se sont abattus sur les Wolves, en mode c'est le pire trade de l'histoire et tout, des critiques qu'on a beaucoup moins entendues cette saison et qui risquent de revenir, quoi. Il y a aussi cette aura-là, quoi.
Totalement,
Effectivement,
totalement. On est dans un cas de figure assez similaire, hein.
c'est ça, effectivement, il y a tellement d'enjeux que c'est ça, il y a de la fébrilité forcément autour de ça. Et justement, bah, ça me permet de faire une transition vers un autre sujet qui est extrêmement important là dans cette confrontation. Et je vais peut-être te poser la question en deux temps, parce que moi, ça m'intéresse déjà d'avoir une réponse un peu générale, et puis après dans le cadre de la série qui nous oppose. Donc c'est au tour de Rudy Gobert, pareil, dont on n'avait pas encore trop parlé pour l'instant, même si bah, il est tellement important dans votre jeu, notamment en défense, que forcément on l'a évoqué. Mais plus précisément autour de lui, il y a beaucoup beaucoup de pression, on le disait. Il y a un aspect aussi de bah, un storytelling autour de Gobert de bah en playoff il devient inutile et tout machin, il a des choses à prouver quoi, tout simplement. Ma première, en fait, voilà, j'ai envie de te poser ma question principale, c'est qu'est-ce que tu attends de Rudy Gobert sur cette série? Et la question, petite question avant, si tu peux y répondre, est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est le joueur le plus important de votre effectif ou est-ce que c'est Anthony Edwards? Vraiment, c'est l'autre question très rapide, si tu peux y répondre rapidement, même si c'est pas forcément une question simple.
Non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux définir ce que tu appelles par important? Parce que pour moi, ça a l'air
d'être. Alors, c'est-à-dire vraiment. Ouais, alors c'est dans la construction générale de votre effectif, quel est le joueur numéro 1? Effectivement, je pense que c'est Edwards parce que c'est le jeune joueur, machin, mais je veux dire, est-ce que l'effectif il n'est pas construit autour de Gobert plutôt que d'Edwards? Est-ce que le projet de jeu il n'est pas articulé autour de Gobert plutôt que d'Edwards? C'est ça ma question.
Non, le projet de jeu il est articulé autour d'Edwards, mais il y a une sensibilité, je pense, et une réalisation que le succès passera par Rudy Gobert et par le nourrir et l'utiliser. Mais je pense que dans ce cas-là, Anthony Edwards est le joueur le plus important. Je vais juste mettre un petit bémol à ça parce que tout le monde s'attend à ce qu'on va dire Edwards. Mais en parlant d'Anthony Edwards, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce mime internet du All-Star Break d'il y a un an à Utah. Edwards est questionné sur les Suns et il répond ils ont KD mais nous on a Jaden McDaniels, tu vois.
Bien sûr que ce même nous parle. On a trouvé ça très rigolo.
parce que Jaden McDaniels a montré à maintes reprises qu'il pouvait complètement shut down les meilleurs joueurs adverses. Il est souvent mis sur les meilleurs joueurs adverses, je pense à LeBron, je pense à Kawhi, je pense à et dans cet aspect là pour moi, en tout cas sur cette série, et pour moi c'est ça c'est lui le joueur le plus important. Et en fait, quand tout le monde a dit, tu disais ouais, tout le monde a dit oui, le trade de Gobert c'est catastrophique, mais pour nous c'est une victoire en tant que fan des Wolves parce que on gardait Jaden McDaniels alors qu'on pensait qu'il allait être mis dans le trade. Jaden McDaniels, pour les gens qui suivent pas vraiment les Wolves, c'est vraiment un joueur exceptionnel, un talent. Qui est en train de se développer en attaque, mais c'est un défenseur hors pair.
Ouais, il y a une comparaison qui est très facile à faire. Il faut juste donner le nom de Mikal Bridges.
Non, le dis pas.
Je l'ai dit. Il faut qu'on le dise une fois par podcast, Rodolphe.
je l'ai pensé très fort aussi quand il a dit. Effectivement, c'est un peu comme si on avait pu récupérer KD sans avoir à trader Mikal Bridges.
Exactement. Et le truc, c'est que bon, Utah avait davantage d'intérêt à choper des tours de draft. Brooklyn semblait moins intéressé par ça, quand même, il nous en est pris quelques-uns. Mais en tout cas, si on devait faire un parallèle joueur à joueur entre Jaden McDaniels et quelqu'un d'autre dans l'histoire des Suns, dans l'histoire récente des Suns, clairement, on devrait citer Mikal Bridges. Il y a ce côté impact défensif indéniable. On est vraiment sur un joueur qui pourrait être facilement un candidat DPOY. Je trouve un petit peu moins cette année comparé à l'année précédente, par exemple.
Je suis d'accord aussi,
vraiment manifeste. Mais c'est vraiment là pour être très tatillon, hein, parce que franchement, cette année, il y a zéro problème. Et surtout, je trouve, ce qui est vachement intéressant avec Jaden McDaniels, c'est que son entente avec Rudy Gobert est parfaite. Elle est parfaite. Et tu as un axe Mike Conley, Jaden McDaniels, Rudy Gobert qui est infernal à attaquer, quoi. Infernal.
Ouais.
Pour toutes les autres équipes de la NBA, sauf les Suns.
Exactement. Mais c'est ça c'est pour ça qu'on craignait un match-up avec les Suns et c'est pour ça que ça va être très intéressant et que bien fort est celui qui va prédire qui et je pense que la transition est tout trouvée parce qu'on va passer au pronostic qui va gagner en fait donc voilà.
Bah écoute, bon, je pense qu'en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce pronostic malgré tout, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent autour de plutôt les Suns favoris de cette série. À la surprise générale, enfin, vu ce qu'on a dit pendant tout le podcast, non, pas à la surprise générale,
un biais de, je sais pas comment dire
en star français,
un recency bias, on dit en anglais, mais je sais pas comment dire en français.
Oui, il y a ce côté-là, il y a le côté aussi, pour rester dans les anglicismes, le star power, qui est quand même plutôt du côté des Suns avec ce fameux Big Three. Donc effectivement, oui, je pense que pour toutes ces raisons-là. Peut-être pour terminer sur la question de Gobert, moi, j'avais la dernière question, allez, avant de passer vraiment au prono.
Oui, parce que je t'ai même pas répondu sur la première question, en fait, je suis désolé.
Ah, non, mais en plus, Oui et non, parce qu'on y a dans la discussion, finalement, on contribue quand même à y répondre. Moi, la question, enfin, la question un peu provoque que j'ai envie de vous poser,
Aïe, aïe, aïe.
qui va être sorti du terrain en premier dans cette série, qui va être mis en échec en premier? Est-ce que ce sera Gobert ou est-ce que ce sera Nurkic?
Je vais être sincère, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un biais parce que je suis fan des Wolves et je ne suis pas objectif. Mais je pense que Gobert a encerclé ce match. Et voilà. Moi, je parierais pas contre Gobert, mais j'avoue que je ne suis pas objectif là-dessus. Donc, je suis curieux d'entendre vos réponses.
Bah ça va être de toute façon sur la durée de la série. Moi je pense qu'effectivement il est tellement important dans votre plan de jeu que ça va être difficile de le sortir, mais donc du coup ça valide un peu aussi la présence de Nurkic sur le terrain. C'est ça qui est un peu particulier un peu dans ce truc-là. C'était pour ça que c'était provoque et que c'était pas forcément en rapport
Après,
avec la réalité. Mais toi
Vogel et Finch ne sont pas Tibbs, hein, et les deux joueurs vont pas jouer 50 minutes, hein, par match non
non, ça c'est
plus,
sûr.
mais.
Ça c'est sûr, il y aura des séquences, mais c'est ce qu'on disait avant. Il y a vraiment un truc à trouver pour vous dans les moments où Nurkic ne sera pas sur le parquet, tellement il est important pour nous des deux côtés du terrain, malgré le fait que bah, ça reste un joueur limité. Greg, toi, plus simplement dans la match-up entre les deux, qui vois-tu dominer entre Nurkic et Gobert?
C'est terrible parce que Rudy Gobert, tu prends son plus-minus cumulé sur les trois matchs de la saison face au Suns, c'est catastrophique. Je crois qu'il est à moins 67.
C'est terrible.
C'est
C'est pour ça que
terrible,
j'ai
quoi.
du
C'est
mal
terrible.
à répondre.
Et c'est d'autant plus terrible que ça représente ni mon amour pour Rudy Gobert, qui est vraiment réel. J'adore ce joueur. Et en plus, le type a l'air vraiment sympa pour l'avoir rencontré en vrai. Vraiment, je peux attester que c'est quelqu'un de très, très sympa. Et de l'autre côté, on a Youssouf Nourkic, alors qui part avec clairement pas du tout les mêmes armes que Rudy Gobert dans une raquette de basket. On est presque même sur deux profils opposés. Moi, j'aurais tendance à mettre une bille sur Nourkic, parce que le truc, c'est que si Rudy Gobert passe à côté de sa série face aux Suns, j'ai l'impression que les Wolves, que les armes principales pour battre les Suns des Wolves ne reposent pas sur Rudy Gobert. Quand même, il a fait un super carton à presque 20 points, je crois, contre nous lors de la dernière rencontre. Par
Dans
contre,
le troisième.
nous, si on n'a pas Nurkic, là, ça va être très compliqué. Là, ça va être très, très compliqué.
C'est ce qu'on
Si les
disait tout à
Wolves
l'heure avec Nazrik,
arrivent à
d'ailleurs.
faire turn. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, si on arrive enfin, si les Wolves arrivent à faire taire Nurkic, si on n'arrive pas à utiliser Nurkic comme on doit le faire pour avoir quelconque espoir dans quelconque série de ces playoffs, là, on va au-devant de gros problèmes. On va au-devant de très gros problèmes.
Toujours la petite ref à Aimé Jacquet qui va bien.
Oui.
La grosse déconvenue. Muscle ton
Ouais, j'allais dire
jeu.
muscle
Il va
ton jeu,
falloir.
mais il n'y a pas de Robert dans une des deux équipes, donc.
Non, c'est vrai, effectivement. Il ne reste plus qu'à nous jeter là dans le grand bain et essayer d'imaginer un peu ce qui va se passer. Messieurs, je vais vous demander un pronostic avec un peu une description rapide de ce qui selon vous va se passer dans cette série. Écoute, on va commencer par Greg, comme ça Léo, t'as le temps d'y réfléchir et éventuellement d'ajuster et de répondre aux attaques. Greg, qu'est-ce que t'en penses?
Bah déjà, c'est beau. Déjà, c'est beau que cette série ait lieu. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a encore une semaine et demie, 2 semaines, là, on n'imaginait pas forcément les Suns être tout de suite en playoff. Et puis surtout, on n'imaginait pas avoir une match-up aussi favorable sur le papier. C'est une match-up qui montre, en tout cas, qui donne les Suns comme favoris dans la plupart des observateurs que j'ai écoutés aujourd'hui. Moi, mon pronostic va pas trop changer par rapport à celui des observateurs. D'abord parce que j'ai un biais Suns et ensuite parce que sans doute je me suis brainwashed avec tout ce que les autres ont dit. Donc je vais mettre 4-2 Suns. Victoire en 6 parce que les Suns vont gagner à la maison, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, victoire en 6 pour les Suns. Je pense que Bradley Beal va être très précieux dans cette série. Parce que Jaden McDaniels arrive à peu près à contenir Devin Booker cette saison, à peu près. Hein. Après, Booker, quand c'est Rudy Gobert, quand le switch est obtenu sur Rudy Gobert, c'est autre chose et Rudy danse la samba. Mais voilà, j'ai l'impression que les Suns ont la shot chart parfaite pour faire déjouer la défense des Wolves, malheureusement, et que les Wolves n'auront pas le temps de s'ajuster sur leurs aptitudes et leurs attitudes défensives pour faire déjouer les Suns. Donc je mets 4-2 Suns. Je ne les mets pas en toute sécurité. Hein. J'avoue que je ne suis pas foncièrement persuadé qu'on va gagner cette série. Les Wolves restent une équipe très sérieuse avec beaucoup, beaucoup de talent. Ne sous-estimons pas Karl Anthony Towns. C'est quelqu'un dont on dit souvent qu'il a des attitudes un peu légères, un peu soft, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette conclusion un peu hâtive. Ne le sous-estimons pas, et je pense en tout cas, ça c'est un vrai pronostic dont je suis 100% sûr, qu'on va avoir une super série de basket.
Bien, moi j'applaudis.
On l'espère. On l'espère aussi.
J'applaudis surtout sur le 4-2. Hein, mais
Ah oui, il me semblait bien aussi qu'il y avait un truc qui a gêné dans tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? C'est quoi ton prono?
Moi j'étais curieux de savoir ce que Greg et toi pensaient déjà pour le match de demain. Parce que je pense que nous, on le gagne le match de demain. Ça, c'était mon premier prono. Et puis sur la série, dans le bracket trash talk, moi, j'ai mis 4-3 Wolves parce qu'on est une équipe à réaction, parce qu'on a l'avantage du terrain, parce que je m'attends à un énorme Karl Anthony Towns, parce que ça fait trop longtemps qu'on l'attend, parce qu'on sait, on a trois. Alors, Greg a raison, l'échantillon est assez faible et il faut le mesurer, le contextualiser. Mais on sait où le bas a blessé contre ces Suns-là. Mais 4-3, ça veut dire que ça va être compliqué. Ça va aller jusqu'au dernier match. Donc voilà, c'est mon avis. Une série qui va être pleine de rebondissements, de promesses. Et je pense aussi qu'il va y avoir quelqu'un qui va être éjecté dans la série à un moment. Le mini-fight entre Bill et Anthony Edwards me fait penser qu'il y a les tempers vont flairer, comme on dit en anglais. qu'à mon avis, ça va se chamailler.
Les esprits vont s'échauffer. Ouais.
J'ai tellement hâte de ça. C'est des équipes qui ont tellement du caractère. Alors, les gens disent souvent des têtes de con, mais moi, je trouve que c'est du caractère. J'ai vraiment, vraiment hâte de ça. J'aimerais beaucoup qu'on ait une rivalité avec les Wolves. D'abord, parce que la fanbase FR des Wolves est relativement cool. Et ensuite parce que je trouve que c'est une équipe qui a de l'avenir, donc j'aimerais beaucoup qu'on ait une rivalité avec vous.
On va voir, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, Léo, là dans ce dernier match, dans le match 82, on a vu qu'il y avait déjà quelques petites étincelles et il commence à y avoir un passif. Et justement, effectivement, il y a, c'est peut-être un élément sur le mental dont on n'a pas vraiment parlé dans cette émission pour l'instant. Et du coup, ça va me permettre de répondre à ta première question, Léo. Moi, je pense effectivement aussi que les Wolves ont gagné le match 1 demain, pour la simple et bonne raison qu'ils ont forcément là le couteau entre les dents, ils ont envie d'en découdre, ils ont envie de nous rentrer dedans, en fait, quoi. Parce que, effectivement, on l'a dit 3 fois, 15 fois, 100 fois dans cette émission, ils n'ont pas gagné encore contre Phoenix cette saison, malgré leur excellente saison. Il y a eu vraiment des espèces de petites embrouilles, de petite rivalité entre Edwards et les Suns depuis un moment. Il y a le côté aussi Book et Towns, tous les deux de Kentucky, qui sont des vieux potes et tout. Donc effectivement, il y a beaucoup d'aspects qui font que sur l'orgueil, à l'évidence, je pense, les Wolves vont faire un gros match demain et donc samedi, peut-être, ce sera déjà passé quand vous entendrez ce podcast. Mais je pense en tout cas que les Suns vont gagner ce match 1. En revanche, je pense que les Suns vont gagner la série 4-2 comme Greg. Je peux même te faire un petit peu vu que tu voulais, Léo, le déroulé de la série. Ouais. Je pense que derrière, on peut gagner le match 2 parce que nous aussi, enfin les Suns aussi sont une équipe à réaction cette saison et que ça peut être un chassé croisé au début, c'est-à-dire les Wolves qui ouvrent la marque, les Suns qui égalisent, puis les Wolves qui vont gagner à Phoenix dans le match 3, les Suns qui égalisent à nouveau, puis les Suns qui prennent l'ascendant dans la série en gagnant les matchs 5 et 6. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que effectivement, au bout du compte, les notions de mental, on l'a dit, sont finalement assez équilibrées entre les deux équipes, sont primordiales, mais équilibrées, il y a des faiblesses, on va dire, des deux côtés. Les notions physiques, c'est pareil, c'est très important, mais voilà, il n'y a pas une équipe qui est clairement au-dessus de l'autre, malgré le fait que vous ayez un petit avantage de taille. Et par contre, on l'a vu dans le jeu, dans la stratégie pure, dans la tactique pure, on pose des problèmes qui sont un peu insolubles, et inversement, on arrive à peu près à résoudre les problèmes que normalement vous posez de manière insoluble aux autres équipes. Donc effectivement, sur cet aspect-là, vraiment purement du basket, en fait, j'ai l'impression que Phoenix va finir par prendre le dessus dans cette série. Là où ça pourrait mal se passer, c'est si sur l'aspect mental notamment ou physique, Phoenix s'écroule à un moment dans cette série, et là pour le coup, ça pourrait très mal se passer. Mais pour moi, si les deux équipes se valent, en tout cas sur la durée de la série, sur les plans mentaux et physiques, Phoenix finira par gagner sur la question du jeu. Voilà, c'était mon pronostic également.
Oh, c'est intéressant.
Donc
on est
tous très optimistes.
Ouais, mais moi, j'avais envie de vous dire que je trouve ça tellement excitant que pendant tellement d'années, nous, on a avalé les couleuvres, on regardait les autres équipes aller en playoff. Et là, de parler de série, on est, en tant que fan des Wolves, on est quand même très content de pouvoir savourer du extra basketball et et aller en playoff, quoi. C'est pas acquis en tout cas.
Ah bah je comprends tout à fait, ça a rien d'anodin, et effectivement t'es un peu à la bonne adresse pour parler de ça dans le sens où nous on est un peu en train de s'habituer à ça, parce que ça fait 4 saisons consécutives qu'on est en playoff, quoi. Mais effectivement on l'a pas été pendant 10 ans, quoi. Je crois que c'était autant que les Kings au moment où on a réussi nous à se qualifier en 2021. Mais c'est vrai qu'effectivement il y a eu tellement d'attentes avant que aujourd'hui on mord dedans, ça nous fait plaisir, quoi. Après, effectivement il y a parfois des gros mauvais moments à passer aussi quand tu te prends des humiliations contre les Mavs et tout au match 7, mais néanmoins effectivement le plaisir d'être en playoff pour les petites franchises, j'allais dire comme les Wolves ou les Suns,
c'est
vraiment un truc qui reste des petits marchés. En tout cas effectivement ça fait toujours très très plaisir de se dire qu'on est invité à ces joutes là et qu'on va pouvoir en profiter. Écoute, c'est un mot de la fin qui me paraît très bien, Léo, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Vas-y, si t'avais autre chose.
Juste une petite j'avais deux petites choses à vous demander pour par rapport
à les petites calls de fin d'émission.
Vous savez, on parlait des Kings, on parlait des Wolves. Est-ce que vous savez quelle est l'équipe qui a la sécheresse, comme on dit en anglais, en tout cas
actuellement, tu veux dire?
Ouais, qui a du mal à retourner en playoff. Ça fait très longtemps qu'ils sont partonnés. Celle qui a la longest drought.
Alors, c'est une bonne question. Réfléchis. Ah, les Pistons, ça fait pas si longtemps que ça.
Non. Il me semble.
Hornets.
Bien joué.
Ça doit être les Hornets.
Les Hornets. Vas-y.
La dernière fois, c'était avec Kemba, donc ça devait être il y a six longtemps.
Kemba avec des genoux, c'est il y a si longtemps.
C'était
l'époque où je voyais encore mon nombril, ça.
L'époque où j'avais encore des cheveux. Ah non, j'en avais déjà plus à l'époque. Pardon.
Non, mais maintenant que vous voyez encore mon nombril, c'est la version soft de la blague. Hein.
Ouais, exactement. Mais petite aparté sur les Hornets, moi je suis très très excité sur leur saison prochaine parce que.
Et tu penses que ça peut être l'année prochaine, justement leur.
Alors
retour,
je sais pas si ça peut être l'année prochaine, mais moi franchement, le trio LaMelo Ball, Brandon Miller, Mark Williams, je suis fan inconditionnel. Et chaque saison, j'ai un peu une darling. L'an dernier, c'était les Kings. Cette saison, c'est les Pacers. Je pense que la saison prochaine, à mon avis, ce sera les Hornets. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont recruter un bon coach. Bon, petite parenthèse de fin d'émission.
C'est bien. Et puis, c'est bien de parler aussi des équipes. Mais le problème des Hornets, moi, j'ai l'impression, c'est un peu que LaMelo Ball, il est fragile malgré tout. Il a déjà fait une saison à plus de 50 matchs, LaMelo Ball.
Je suis pas sûr. Mais
c'est possible, mais une seule, quoi.
Je veux voir du pick and roll.
Il est très très fort. Hein. C'est vraiment un joueur extrêmement intéressant.
Il a volé le rookie de l'année à Anthony Edwards, donc on l'a un peu en travers des crocs, nous.
C'est vrai. Alors qu'il joue que 51 matchs à cette saison-là, finalement. C'est marrant. Mais effectivement, les 36 matchs l'année dernière, 22 matchs cette année, c'est quand même, il y a un vrai souci, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète pour eux. Sur le papier, c'est vrai qu'ils ont de quoi être excitants, les Hornets,
Joel Embiid a aussi manqué beaucoup de matchs dans ses débuts de carrière.
C'est vrai. À un moment, ça s'est réglé, effectivement, alors qu'on pensait que ça se réglerait pas. Et inversement, Ben Simmons, finalement, après sa saison rookie blanche, on s'est dit c'est bon, il est prêt. En fait, peut-être qu'ils l'ont lancé un peu trop tôt. C'est une bonne question.
Et ma dernière requête, c'était on a parlé de Josh Okogie. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 37 joueurs qui sont passés dans nos deux franchises. Est-ce que vous en avez d'autres en tête?
Là récemment, alors attends.
All time, tu peux y aller all time. Je suis vraiment. J'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit, avant de préparer le podcast, je me suis dit, ça va peut-être les intéresser de
Ah,
savoir
ça aurait été un bon quiz à faire, effectivement. Alors attends, les joueurs passés par les deux, il y en a plein, forcément.
J'ai la liste devant les yeux, hein, donc je joue pas. Hein, mais
Attends, attends,
il y en a
attends.
un
Est-ce
qui est dans votre
que.
équipe et vous l'avez pas, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Grayson Allen?
Non.
Non, je confonds, il était à Memphis, pas à Minnesota. Qui était à Minnesota avant de venir ici?
Je fais un petit jingle. On mettra, je
Petit
vais mettre une
indice.
petite musique de fond.
Petit indice, il est dans le trade avec Kevin Love et Andrew Wiggins, le fameux trade où on envoie Kevin Love aux Cavs.
Wow, donc c'est un vieux quoi.
Thaddeus Young? Non.
Ouais,
Mais
bien joué.
si.
Tadjou? Il était au Memphis.
Thaddeus Young a joué partout. Hein.
Oui, c'est vrai. Et on parlait de Sam Cassell aussi. Sam Cassell a joué pour les Suns une saison.
Ah voilà, j'ai dit Sam
Sam
Cassell
Cassell
tout à
aussi a
l'heure.
joué
Hein.
partout. Ouais.
Ah, j'ai pas
Sam
entendu ça.
Cassell a joué
Ah
partout.
ouais, j'ai dit Sam Cassell tout à l'heure parce que bah, j'adore le joueur. Mais non, sinon, attends.
Ouais.
Après, il y a évidemment Ricky Rubio.
Ah, évidemment.
Ouais, Rubio, ouais, c'est
Il
pas
y a
mal.
aussi, n'oublions pas, Stéphane Marbury.
Exactement. Ouais. Trois saisons chez vous et trois saisons chez nous.
Attends, il y a qui d'autre? Parce que là, ça va commencer à revenir, là. Je me penche dessus. J'essaie de
Bec de
remonter.
Lièvre.
J'essaie
Bec de
de.
Lièvre.
J'essaie
Ah,
de.
Dario, mais oui, Dario, bien sûr. Bien
Dario
sûr. Bah,
Saric,
en
mais
plus,
bien sûr.
on le récupère en trade de
Bien
chez vous, en
sûr.
plus.
Mais oui, bien sûr.
Eh oui,
Bien sûr, bien
bien
sûr.
sûr.
Et du
Bien
coup, on ne
sûr.
peut pas dire Cameron Johnson parce que je crois qu'il n'a pas touché un ballon sous
Non,
votre
non, non, ça
maillot.
compte pas, ça.
Mais on le récupère aussi chez vous. Il n'y a pas un petit Gugliotta, un truc comme ça, de l'époque?
Eh, absolument. Il y a un petit Anthony Tolliver aussi.
Ouais, il y a Tolliver, il y a Stephen
Voilà,
Marbury, mais il y a
non.
aussi son cousin, Sébastien Telfair.
Et absolument. Et il y a un
TJ
mec
Warren.
qui.
Là, on
Et
commence.
oui.
TJ Warren a joué aux Wolves.
Il
Putain,
est
ouais.
aux Wolves, il est dans notre
Ah, mais
roster.
oui, je l'ai vu sur le banc l'autre jour, c'est
Mais
vrai,
ouais,
car il est aux Wolves actuellement, t'as
mais
raison.
ouais.
Tout à fait, tout à fait. Oui, je me suis demandé, mais c'est TJ Warren, effectivement, c'était peu, oui, car.
Je pense que j'en ai trois
Mais
d'autres.
il a joué cette saison d'ailleurs, tiens, oui, bah, c'est
Oui, il a
la
joué.
question que
Il
je
a
voulais poser.
joué. Il a joué. Il a même joué contre vous d'ailleurs à la fin du match.
Dans le Money Time, là?
Le
Enfin,
match
pardon,
le
Garbage
garbage
Time,
time.
pardon, ouais, pardon, ouais.
Je pense que j'ai
Mais.
quatre autres joueurs à donner.
Vas-y, vas-y.
Il y a Keita Bethiop.
Ouais.
Ah, mais oui, bien sûr.
Il y a Michael Beasley.
Ouais.
Lou Almonson.
Ouais.
Je suis
Quoi?
bon.
Qui est cette personne?
Et le dernier, c'est peut-être Aaron Brooks. Il joue que 25 matchs chez nous. Ça doit être en 2010, je crois. Mais il vient chez vous un peu plus tard dans sa carrière,
Ouais,
non?
absolument. 2018.
Ah, il est
Ouais.
chaud, le Greg, il
En
est
fait, non,
chaud.
mais en fait, je mets du temps à me lancer, mais après,
Ah,
c'est
j'ai vu
bon.
ça. Ah, franchement, moi, j'aurais eu KBD si j'avais réfléchi. Rubio, évidemment, mais c'est tout.
Je réfléchis dans une histoire un peu plus longue, mais après, c'est compliqué.
Un
Ah, mais
mec
si,
qui vient.
Gerald Green!
Eh oui, Gerald Green
Gerald Green a joué
et un
au
mec
Wolves.
qui
Ouais,
a fait
Gerald Green.
du volleyball après sa carrière de basketteur.
Alors là.
Qui a participé au dunk contest.
Bah, du coup,
Comme Gerald
Gerald
Green.
Green, mais c'est.
Oh là là, je vais vous le dire et vous allez être en mode What?
Ok,
Bah, du
vas-y,
coup,
dis.
côté
Il a
Suns, ça
joué
peut être qui?
17 matchs chez vous, hein. Pas beaucoup.
17. Ah oui, c'est pas beaucoup, en effet. Non, mais je sais pas.
Chase Budinger.
Oh là là, Chase.
Alors là, par contre,
La légende des Rockets.
aucun souvenir
Exactement.
en ce moment que Suns, effectivement.
Ah, il y a Oliver Miller, il y a Luke Longley, il y a Todd Day, il y a
Oliver Miller a joué aux Wolves aussi,
Luke
hein.
Longley.
On apprend
Wow.
des choses.
Isaiah Canaan, Tyrone Corbin, Wesley Johnson et surtout Jamal Crawford.
Mais oui, Jamal Crawford, bien sûr. Il y en avait plein que j'aurais pu avoir quand même, effectivement.
Et
Ouais, c'est
Greg
le.
Monroe aussi, purée. Greg Monroe a joué 20 matchs chez vous et 4 chez
Enfin,
nous.
ouais, mais là,
Là,
ça.
après,
Non,
on
mais
part
ouais,
dans
bon,
des
là,
trucs.
Regarde,
Là, on part dans des
Greg
trucs.
Monroe, en plus, c'était quoi? C'était au moment du. Non, c'était pas au moment de.
C'est 2022 pour nous et 2018 pour vous.
Donc, vous, c'est. Ouais, j'allais dire, vous, c'est au moment du Covid.
Ouais,
C'est quand il fait un
absolument.
espèce de retour à la con et tout machin, quoi.
Exactement,
Et
après.
nous, effectivement, oui, c'est dans la période où on essayait désespérément de recruter des vétérans en disant, ah, ça va peut-être essayer, ça va peut-être essayer.
Et là, j'ai un nom.
Ouais, tout à fait, je me
J'ai un
souviens.
nom. J'avoue que je n'ai pas suivi ce nom-là.
Et t'en perdition.
Nikoloz Tsikitvili.
Ouais, mais ça c'est 2005 ou 2006, je crois.
Exactement, 2006.
Ouais,
5 matchs
il
chez
joue
nous et
une
12
grosse
chez
dizaine de
vous.
matchs chez nous, mais
Exactement.
c'était. Ah, mais 2006, je suis à peu près incollable, mais parce que c'est l'année où je colle avec les Suns, mais je crois. Mais
Marcus Banks, 2006 aussi.
Tchikichvili, ouais, c'est. Là, on va trop loin.
Voilà, et...
c'est un sacré quiz pour finir. Alors, bravo, bravo, voilà. Léo.
Ouais, bravo.
Bah, merci.
C'est pas au niveau du tout, mais c'est vraiment propre. Bah, écoute, merci en tout cas d'avoir accepté.
Moi, je vous remercie, les amis.
Ouais, non, c'était très chouette de t'avoir. Merci, Greg, comme d'habitude, d'avoir
été
fidèle au poste. Merci à nos auditeurs, évidemment, bien sûr, d'être là, émission après émission. Bah, écoutez, messieurs, bon, Léo, on se retrouvera peut-être pas tout de suite, hein, du coup. mais une prochaine fois avec grand plaisir. Et effectivement, Greg, bah, je pense qu'on se retrouvera, on verra peut-être au milieu de la série pour faire un premier point.
Bah, on fera un petit
point. On n'a pas donné le calendrier, mais le calendrier est assez particulier dans cette série, parce qu'il y a 4 jours d'écart, je crois, entre le match 1 et le match 2.
Ouais.
Puis 3 jours d'écart ou un truc comme ça. Et puis après, ça se précipite, quoi, entre match 3, match 4 qui s'enchaînent en back-to-back. Je sais plus, il y a un back-to-back à un moment, en tout cas.
Si vous voulez qu'on refasse un débrief après la série, avec plaisir. Hein,
eh ben écoute, si tu ça peut être le rendez-vous peut être pris si toi t'es disponible à ce moment-là.
Ce serait intéressant justement de comparer avec ce qu'on a dit lors de cette heure et demie, en se disant ben voilà, on en avait dit ça. Est-ce que c'était pertinent? Ça serait intéressant.
Eh ben carrément, et puis ça donnera l'occasion effectivement aussi de discuter avec Hichem, toi, à cette occasion-là, donc ouais, non, carrément. Eh ben écoute, on prend le rendez-vous, et puis on espère que ce sera pour parler d'une victoire des Suns et d'une qualification en demi-finale de conférence. Voilà.
Je vais dire non, voilà.
Ouais, mais t'es chez nous, donc c'est comme ça.
Exactement.
Bon, et ben en tout cas, à bientôt Léo, et
merci,
à bientôt
les amis,
pour un prochain épisode de Valley Hoop. Allez, à bye. Plus.
Ciao. Back with the Remus. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took. Wet like I'm book. Raising up. Deep three on the way. Oh, Durant goes. Boom. That is just. Oh. Sun came out. I went about to drop top.